Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire à la Trinité toute sainte, une, indivisible, immortelle, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Amen.
Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons
recours. Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours.
Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours.
Voilà. Eh bien, écoutez, nous avons du pain sur la planche puisque on s'est fixé un programme. Alors, je veux bien continuer ce qu'on avait fait, ce qu'on avait commencé la dernière fois, sauf si vous avez des questions particulières à poser, c'est-à-dire toujours des angoisses métaphysiques particulières, des interrogations, etc. Bon, peut-être que tout, comme d'habitude, vous êtes dans le repos de l'esprit, que votre intelligence nage dans la vérité suprême, et que par conséquent, aucune obscurité ne s'ouvre dans votre horizon mental. Voilà. Vas-y.
Au sujet du baptême, j'ai appris donc que, en tant que laïque, on pouvait baptiser dans des conditions bien particulières, je crois, surtout en cas de danger de mort pour un enfant. Mais est-ce qu'on ne peut pas étendre, en prenant par exemple un cas dans une famille, un couple, disons, a un enfant, il ne veut pas le baptiser.
Oui.
Est-ce que les grands-parents peuvent le baptiser,
oui,
disons, en cachette, quoi, vous avez des parents, est-ce que c'est validé?
Oui. Normalement, il y a, comme on le voit dans l'Écriture, une responsabilité du père et de la mère par rapport à leur enfant. Et on s'aperçoit qu'il y a comme une volonté de Dieu, si tu veux, c'est ça qui est extraordinaire du reste, de voir comment l'amour de Dieu, tu vois, c'est très troublant de lire l'Écriture. On voit que Dieu, quand il crée l'homme, quand il crée la femme, quand il crée l'âme spirituelle, puis il leur donne précisément cette espèce d'extraordinaire responsabilité de pouvoir concréer avec lui. Puisque tu vois que quand un homme et une femme procréent, ils font évidemment quelque chose de plus grand que ce que Dieu fait lorsque apparaît par exemple un nouvel éléphant ou un nouveau singe. Parce que quand apparaît un nouvel éléphant ou un nouveau singe, c'est uniquement le fruit des lois de la nature. Tandis que lorsqu'il s'agit d'un être humain, tu remarqueras que ce n'est pas le fruit des lois de la nature. Il faut une intervention directe du Créateur. S'il n'y a pas une intervention directe du Créateur, il est impossible qu'apparaisse un être humain. Tu vois, ça c'est des choses qu'on voit sur le plan philosophique. Déjà, que l'être humain a ceci de tout à fait particulier par rapport à toutes les autres réalités que nous constatons dans notre univers, c'est que l'être humain subsiste dans l'ordre de l'être et donc elle exige un acte créateur de l'être premier. Je n'ai pas besoin d'avoir la foi pour comprendre ça. Tu vois ? Et ce qu'il y a, bon, ceci est facile à comprendre si on réfléchit un tout petit peu, mais dès qu'on lit l'Écriture, on s'aperçoit d'une chose absolument extraordinaire, c'est que Dieu suit la liberté, le choix de l'homme et de la femme. Il veut les suivre. Mais je veux absolument le suivre. Parce que, et tout, alors justement, c'est pour ça que si le père et la mère, ou le père ou la mère, disent non, pas de baptême, eh bien, Dieu dit ok. Alors le grand-père et la grand-mère, ça dépend. Si on s'aperçoit que le père et la mère sont complètement défaillants, complètement givrés, etc. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables. À ce moment-là, on le voit, ils confient leur enfant au beau-père, à la belle-mère. Hein. Ça arrive, ça. Alors à ce moment-là, effectivement, on s'aperçoit que la grand-mère ou le grand-père, ou les deux, se rendent compte que, pratiquement, c'est eux qui ont le plus, beaucoup plus que le propre mère et la propre mère, le propre père et la propre mère, la charge de l'éducation. Et ils le constatent. Alors s'ils le constatent, eh bien, ils peuvent effectivement prendre en charge le baptême de l'enfant. Tu vois ? Mais tu vois, tout ça, c'est une question simplement de responsabilité. Tu vois ? À partir du moment où le père et la mère, dans leur manque, constatent dans leur manque de maturité, etc., qu'ils n'ont pas cette maturité, puis confient, qui s'abandonnent au fond. Et il faudrait qu'eux-mêmes le constatent, tu vois, mais tu ne peux pas le faire dans leur dos, je crois, personnellement. En tout cas, l'Église de Jésus, et puis je crois l'Écriture, tu vois, toute l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament montre qu'on doit respecter quand même. Mais les voies de Dieu sont ainsi faites. Mais quelquefois, il y en a qui sont quand même poussés à le faire. Il y en a comme ça qui sont poussés à le faire. Alors, tu m'as posé la question de la validité. Alors, il faut distinguer dans l'Église apostolique deux notions différentes. Hein. Vous avez, dans tous les sacrements, vous avez sept sacrements. Hein, sept sacrements. Dans chaque sacrement, les sept sacrements, pourquoi est-ce qu'il y a sept sacrements ? Ben, ça, c'est une très bonne introduction à notre tableau, puisqu'on va, on se demande à chaque fois quelle est la colonne de sept. Mais qui est-ce qui n'a pas le tableau ? Alors, on étudie ce tableau, n'est-ce pas ? Bon. Allez, tu peux distribuer à ceux qui n'ont pas. Donc, vous voyez bien que les sept sacrements, pourquoi est-ce qu'il y a sept sacrements ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il y a sept sacrements ? À quoi ça sert les sacrements ? Voilà. Donc personne n'a amené son tableau. Si à chaque fois je l'amène 50 photocopies, hein, je veux dire. Hein. Ça fait partie de l'auberge, quoi. Alors. Ça y est. On me prend le poursuivre. Bon, alors. Je vous rappelle, c'est une petite théologie des sacrements. Ça tombe très bien, parce qu'à un moment, vous voyez, vous avez sept sacrements. Ça. Alors, vous voyez où c'est, le père. Moi, je ne vois pas encore. C'est l'Église dans la grâce. Il y a sept sacrements. Je vais commencer avec le sacrement du baptême. Et avant, je vais vous donner une petite théologie des sacrements. C'est très important, les sacrements. Vous savez que l'Antichrist, c'est-à-dire le chiffre, la bête mystique, la signification principale de ce chiffre, c'est le rejet des sacrements. Quelqu'un qui veut suivre le Christ, qui prend le visage du Christ, Christ universel, cosmique, mais à condition qu'il n'y ait pas les sacrements. Les chiffres de la fête. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois comment c'était expliqué par les apôtres. Donc il faut bien comprendre cela. Pourquoi est-ce que les sacrements sont une chose si radicale, vitale pour l'Esprit Saint, le Père et le Verbe incarné ? Le sacrement, c'est une invention humaine. C'est les hommes qui ont inventé ça. Et puis ils ont fait des conventions, ils ont inventé un truc invraisemblable. Un système avec des étiquettes. C'est puis c'est le truc, tu sais, c'est invraisemblable.
Alors, bon, reprenons. Alors, d'abord, si vous prenez les sacrements au niveau simplement de « il faut » ou « il ne faut pas », vous êtes totalement dans l'erreur. Je suis tout à fait d'accord. Parce que si vous dites « le sacrement, il faut le baptême, il faut se confesser, il faut aller à la messe hein, », vous voyez bien. Ça veut dire, si vous dites comme ça, vous mettez ce qu'on appelle, vous mettez, par exemple, pour l'éducation des enfants, c'est important, hein, puisque vous commencez à avoir des enfants. Hein. Donc, c'est important de ne pas rabattre le point de vue impératif catégorique du sacrement surnaturel au niveau moral. C'est-à-dire que la vie divine n'est pas au plan moral. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que la morale, c'est pour qu'on ait une droiture humaine, une loyauté intérieure, une vérité extérieure, une capacité de se donner vraiment, et aussi une capacité de contempler la vérité. Ça, c'est la morale. C'est humain. C'est humain, la morale. Nous ne méprisons pas la morale. Je ne dis pas ça. Je n'ai pas dit qu'on méprisait la morale. Mais je dis que Jésus n'était pas venu nous apporter la morale. C'est pour ça que les pharisiens, qui tout le temps rabattent au niveau « il faut », Jésus a dit « bon, de vipère ». On ne remet pas, ça revient à quoi? C'est de l'athéisme. C'est l'athéisme. Pourquoi c'est l'athéisme? Parce que ça voudrait dire que je remets Dieu au niveau humain. Mais Dieu est tout à fait transcendant. Dieu dépasse toujours le humain. Donc si je mets des lois, vous voyez ce que dit l'épître de Saint-Jacques, qui est dit pour juger ton prochain. Si tu juges ton prochain, tu juges de la Torah, tu juges de la loi. Si tu juges de la loi, de la Torah, c'est que tu juges l'auteur de la Torah. Or l'auteur de la Torah, c'est Dieu. Donc tu juges de Dieu. Donc tu vois de Dieu. Et donc qui es-tu pour juger Dieu? Eh oui. Il faut, il ne faut pas, c'est pas bon de voir ça. Vous voyez? Alors pourquoi? C'est une morale. Vous voyez bien, là au niveau moral humain. Les sacrements ne se situent pas au niveau moral. C'est très très important. Ça ne se situe pas au niveau naturel. C'est pas au plan humain. Je peux être religieux humainement parlant. J'aime Dieu. Je suis ouvert. Je suis tolérant. J'accueille. Tu peux me donner. C'est humain. C'est moi qui suis ouvert à Dieu. C'est moi qui voulais prendre par Dieu. C'est moi qui cherche la vérité. Mais ça, c'est humain, ça. Les païens en font autant. Et tous les disciples de l'Antichrist feront même plus que toi, mon sauveur. Donc ne dis pas je suis sauvé. Non. Parce que Jésus est venu nous apporter la grâce. La grâce. Il faut toujours rappeler ça, combien de fois je vous le dis, mais la grâce. Attention, la grâce, la sanctifiante. Alors, rappelez-vous toujours que la grâce, ça s'écrit comme ça, avec un chapeau. N'est-ce pas? Si vous ne mettez pas le chapeau, c'est pas bien, n'est-ce pas? Alors, donc, voyez-là. La grâce, il vient nous apporter la crainte. Qu'est-ce que cette histoire de grâce? Encore une invention, invraisemblable. Bon, c'est pas une invention. Parce que tout ça, vous voyez, nous parlons à partir donc de ce que Jésus nous dit. Vous voyez, c'est ça, le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne peuvent pas dire des choses par eux-mêmes. Ils transmettent une dévoilement de quelque chose de tout à fait caché, c'est tout à fait au-delà de ce que notre intelligence peut atteindre, et il le reçoit de Dieu et il le transmet. Donc, tout le problème d'un apôtre, quelqu'un qui veut devenir apôtre, c'est justement d'être capable, ce qui est très difficile, hein, très très difficile, être capable de se dépouiller de sa manière de voir, de ses idées sur Dieu, de son opinion subjective. De manière que ce soit la pensée, le verbe intérieur du Père qui passe par lui. Et le verbe intérieur du Père, c'est, nous le savons bien,
ne peut pénétrer en nous que par la grâce.
Ah ! Le Verbe intérieur du Père ne peut pas nous atteindre si il ne prend pas chair. C'est un calme. Donc le Verbe s'incarne. Jésus, c'est Dieu fait homme. Vous le savez bien. Alors, attention. Donc vous voyez, l'incarnation. Mystère de l'incarnation. Vous savez que les deux, c'est ce que disent les apôtres, quand les douze apôtres, quand ils ont écrit la didaké, c'est-à-dire l'enseignement commun des douze apôtres, c'est du deuxième siècle après Jésus-Christ, rassemble l'enseignement des douze apôtres, n'est-ce pas? Ils disent, et l'Église ne cesse de le répéter, le peuple chrétien, ceux qui restent dans la succession apostolique, hein, c'est-à-dire ceux qui veulent garder intégralement cet enseignement oral sorti de la bouche du Christ, hein, sans rajouter leurs opinions personnelles, hein, que ce soit la vérité, immaculée, eh bien, ils disent qu'il y a dans la foi deux colonnes. Première colonne, mystère de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair. Mystère de l'Emmanuel. Jésus. Et le deuxième colonne de notre foi, c'est le mystère de la très sainte Trinité. Il y a trois personnes et un seul créateur, un seul Dieu. Bon, ça j'espère quand même que pour vous, on est d'accord. Hein. Vous voyez bien le problème qui va se poser pour nous. Hein. C'est que pour garder ça, c'est pas commode. Vous comprenez bien que si le Verbe se fait chair, il s'incarne, c'est pour nous faire rentrer dans la Sainte Trinité. C'est la finalité. C'est l'unique finalité de la création de l'homme. Ou de la femme, pour les femmes c'est pareil. Contrairement à ce que dit l'ancien Premier ministre, M. Rocard, enfin, pour les femmes c'est pareil. L'Église a toujours dit pour les femmes c'était pareil, même peut-être plus. Bon, enfin non, pas plus, pareil. Donc l'Église n'a jamais dit que pour les femmes c'était. Bon, enfin. Donc, je m'excuse de ce petit truc. Voilà, donc vous voyez, le Verbe, c'est pour nous faire rentrer dans la très sainte Trinité. Parce que si je ne rentre pas dans. Le mystère, par le mystère de la grâce, dans le mystère de l'incarnation, eh bien, vous pouvez toujours vous brosser les dents pour connaître Dieu distinctement, quand vous avez une expérience divine, savoir si c'est la personne du Père, la personne du Fils, ou la personne du Saint-Esprit. Pensez-vous les anciens, vous allez voir. Et venez me voir. Non, moi je ne vis pas des sacrements, mais je vois très bien ce que c'est que la très sainte Trinité. Quand je fais une expérience divine, je sais que c'est Dieu le Père. Parce que vous comprenez que Jésus fait que nous rencontrons, en tant que personne humaine, Dieu en personne. Mais merde alors, ça tombe mal, il y en a trois. C'est comment le problème? Si je ne rencontre pas Dieu en personne, je suis obligé de me réduire à une espèce, et donc je ne dis pas de la grâce, eh bien je suis obligé de rencontrer Dieu à travers le rayonnement de la grâce qu'on appelle les énergies. Obligé. Les énergies. Et effectivement, les énergeia en grec, n'est-ce pas? Donc les énergies. Les énergies, je me ramasse au niveau des énergies. Et les énergies, donc vous voyez tout le mouvement, justement, un petit peu contemporain, bon, c'est un mouvement, vous voyez, je suis obligé, alors je vis de Dieu. Oh, la paix intérieure, très profonde, cette unité extraordinaire, avec Dieu. Je fais une expérience de Dieu. Mais je ne rencontre pas Dieu en personne, je le rencontre à travers une espèce de trace qu'il a laissée dans son action créatrice, dans son action rédemptrice et dans son action sanctificatrice, l'Esprit Saint. C'est une trace des énergies. Vous voyez bien, c'est un rayonnement. Mais je ne pénètre pas à l'intérieur de la grâce. Je peux même ressusciter des morts. Je peux guérir des malades, je peux faire suinter des icônes. Je peux faire ce que je veux avec les énergies. Vous savez. Donc si une icône vient sur vous, vous inquiétez pas, c'est pas pour autant que vous êtes un peintre.
Pas du tout.
Est-ce que vous comprenez?
Jésus le dit, hein. Ceci, Jésus le dit explicitement. Ça, c'est ce que je vous dis là. Il le dit explicitement. Comment ça? Mais nous avons chassé les démons. Mais nous avons guéri des malades, Seigneur. Seigneur, nous avons proclamé ton nom. Seigneur, nous avons vraiment... Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez que Jésus exige qu'on ait un discernement.
Excusez-moi, d'après vous, dans le cas des cônes qui se font enfin, dans différentes
endroits, dans tout autre ordre de manifestation,
est-ce que donc pour vous, vous attribuez ça à des phénomènes qui peuvent être autres que divins?
Non, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de dire. D'abord, le Toto peut le faire. Premièrement. Deuxièmement, on ne parlait que du Toto. Je suppose que ce ne soit pas le Toto. Ça peut être uniquement un phénomène de trace divine. Tu vois? C'est-à-dire que tu utilises effectivement le Christ cosmique, etc. Et puis, effectivement, à travers tes énergies du Christ, christique, que je dirais, si tu veux, christique, venant du Christ, ou venant même de l'Esprit Saint, des charismes, c'est ça. Eh bien, oui, c'est ça que je cherche, c'est d'avoir le don de guérison, le don de parler des langues que je n'ai jamais appris, le don, moi, je ne suis pas contre, puisque le bon Dieu est passé par moi quelquefois pour obtenir des guérisons. Tu vois, c'est miraculeux, c'est le fait de parler des langues que je n'ai jamais appris, ça m'est déjà arrivé. Mais je sais très bien, pour l'avoir expérimenté, que ça n'a rien à voir, mais strictement rien, avec la grâce.
Et où se situe les frontières? Parce qu'il faut bien exister les frontières.
Voilà, c'est tout le problème là. Donc justement, c'est pour ça que je vous balance ça à la figure, pour dire, vous voyez, il y a un gros problème qui se pose. Et vous voyez, Jésus demande qu'on soit intelligent. Hein? Donc n'oubliez jamais ça, Jésus demande qu'on soit intelligent. Ah, moi je vis Jésus. Imbécile. Ah non, moi je veux pas savoir, je veux pas... Non. J'en vis. Jésus, il dit, je suis la lumière. Je ne demande pas qu'on soit boueux, bête comme cette pierre. Il faut avoir un minimum d'intelligence. D'autant plus qu'on sait que les êtres angéliques, les esprits séparés, si tu veux, sont des êtres qui ont une intelligence extraordinaire, une ruse très très grande. Et donc, mais on sait qu'on doit se battre contre eux, contre des êtres qui vont, qu'ils soient humains ou qu'ils soient célestes, contre des êtres, des puissances, des dominations, etc., qui cherchent à nous avoir. Frère, soyez sobre, éveillés, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, va aller bien à la recherche d'un proie, guettant, cherchant qui dévorer, résistez-lui, fort, dans la foi. Donc, voyez bien, il ne s'agit pas d'avoir la foi, il s'agit d'être fort dans la foi. Et c'est cette force de la foi qui compte. C'est quoi la force de la foi? La foi, c'est une lumière surnaturelle qui pénètre dans notre intelligence pour voir clair. Ah, j'ai la foi, moi, j'ai la foi. Alors, comme le charbonnier, j'ai la foi, puis c'est tout. Je veux rien comprendre, j'ai la foi. Mais non, Jésus a révélé les secrets, les mystères. Et je dois les comprendre. Et dès que je commence à les comprendre, je comprends que c'est un mystère, c'est-à-dire que l'horizon de ce mystère s'élargit beaucoup plus que je ne pensais. Et donc, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas le comprendre, ça veut dire que je peux le comprendre encore plus. Et c'est ce que Jésus nous a apporté. Il nous a apporté la doctrine. Vous voyez, dit à quel Christ, la doctrine du Christ, la doctrine du Père. Et c'est une question de doctrine. Vous lirez l'évangile de Saint Jean et vous verrez que Jésus dit que la différence, vous voyez, sur ceux qui se font avoir, ceux qui ne se font pas avoir, ça, c'est ceux qui suivent la didaké du Père, la doctrine, et qui sont formés à cette doctrine. Et la succession apostolique, c'est de faire que cette doctrine sortie de la bouche du Christ soit préservée, qu'elle ne soit pas abîmée. Donc c'est ce qu'on essaye de faire ici. Donc voyez bien, la première chose, première colonne de la foi, l'incarnation. Deuxième colonne de la foi, la très sainte Trinité. Bon, Jésus, c'est Dieu, c'est homme. Bon, alors je m'excuse pour le point de vue technique, mais c'est pour résumer. Je préférerais vous faire ça en théologie mystique, mais je vais vous faire en théologie scientifique parce que c'est plus court. Hein?
En fait, moi,
pardon.
Pour revenir à une chose concrète, là,
C'est un congrès.
Pour vous, considérez-vous que, par exemple, une icône bénite, qui était bénite préalable par un prêtre, etc., oui. Bon, il se passe un phénomène de Dieu, quelque chose, pour vous, est-ce que ça peut venir de Dieu?
Oui, dis-moi, si tu as reçu le baptême, tu as été plus que béni, puisque tu as reçu un sacramental, tu as reçu un sacrement. Est-ce que tu peux pécher après ton baptême? Wow.
Oui, mais Dieu est-il plus fort ou moins fort que le démon?
Dieu est Dieu. Donc il est au-dessus.
Ça, vous pouvez tourner, mais vous
pouvez... Non. Tu me poses une question précise. Moi, je te pose la question. Si tu reçois la tête, ce sera plus qu'une bénédiction. Tu recevras un sacrement. La bénédiction, c'est juste un petit sacrement. Et il est proportion de la foi de celui qui le reçoit. Tandis que le sacrement, il opère est opéré procurateur. Ça va? Il opère quoi qu'il arrive. Et tu la poses. Il agit. Bon, alors, tu comprends bien, si tu as reçu le sacrement de la tête, tu as reçu beaucoup plus qu'une bénédiction. Ça va? Tu peux pécher après, oui ou non? Tu peux pécher après. Alors, donc tu vois que la réponse au sacrement de la tête est encore plus, a fortiori, pour un sacrement de la tête. Parce que Dieu donne une liberté plus grande à chaque fois qu'il donne une bénédiction. Donc,
c'est-à-dire que pour vous, ce n'est pas un oui systématique, mais un non systématique.
Une bénédiction, c'est bien, parce que ça permet d'aller plus. C'est une aide, si tu veux. C'est une aide si ton intention, c'est effectivement de vivre de la prestance. Mais dès que tu te coupes de cette finalité, la bénédiction devient une malédiction. Tu vois, c'est ce que dit saint Paul à propos, par exemple, du sacrement de l'Eucharistie. Celui qui s'approche de la cinacle et de l'Eucharistie, sans discerner le corps, le prend, le mange et le boit pour sa condamnation. Parce qu'il ne discerne pas le corps. Donc tu vois, le sacrement est normalement source de bénédiction, mais si tu te coupes de la finalité, ça te condamne. C'est-à-dire que ça te plonge dans une condamnation plus grande. Attention, ce n'est pas condamnation au sens moral, hein. Attention, hein. C'est-à-dire, au lieu de te servir, ça t'enracine plus profondément encore, si tu veux, dans un point de vue humain qui ramène Dieu à l'homme. C'est-à-dire, ça va te faire idolâtrer le point de vue humain. C'est ça que ça veut dire, condamnation. Ça va produire une espèce d'inversion, ce repli sur soi. Tu fais que tu vas croire que tu es au-dessus de Dieu de plus en plus. Ça va? Bon, je reprends où on en était. Hein. Donc Dieu, le Verbe s'est fait chair. Tu vois bien que quand le Verbe s'est fait chair, le Verbe, il est lumière, né de la lumière. Et puis la chair s'implique sous le point de vue cosmique du corps, le point de vue cosmique du minéral, le point de vue cosmique de la vie végétale, des plantes, le point de vue cosmique de la vie animale, le point de vue cosmique de la vie humaine. Vous le comprenez ça, j'espère. Et donc Jésus, lui, il prend chair, quand le Verbe prend chair, il y a, c'est ça qui est extraordinaire, il y a Dieu, le Verbe, Dieu le Fils, si vous voulez, Dieu le Fils. Il y a l'homme, Jésus, enfin la nature humaine, on va dire nature humaine de Jésus, nature divine du Fils. Il y a deux natures. Et pourtant, il y a une seule personne. Alors, essayez de retenir toujours ça, c'est que il n'y a pas, quand vous regardez Jésus, Jésus n'est pas ou n'a pas de personne humaine. Jésus n'est pas une personne humaine. Retenez bien ça, hein. Ça c'est en toutes lettres de l'Écriture. Mais il est vraiment un homme, mais il n'est pas une personne humaine. C'est une personne divine. C'est Dieu. Qu'est-ce que c'est que la personne? Ceci est très important, hein, je vous signale. Hein. Ceci est très important parce qu'il va y avoir, justement, dans d'autres points de vue, l'union avec le Saint-Esprit. Hein, quand nous serons unis avec le Saint-Esprit, même si c'est dans la sainteté plénière et la plénitude de sainteté, hein, ben la résurrection sera ça. À la résurrection, on aura une plénitude de sainteté, extraordinaire. C'est l'Esprit Saint seul, troisième personne de la très sainte Trinité, qui va actuer toute notre personne humaine. Donc il y aura deux personnes et une seule vie. Vous savez, tout à fait le contraire ici. Hein? Avec l'Esprit Saint, ce sera, ça c'est pour la première personne, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité, une personne, deux natures. Pour la troisième personne de la très sainte Trinité, eh bien, il y a une seule vie, une seule spiration, si vous voulez, de gloire, pour deux personnes. Une personne humaine, c'est nous, et la personne divine, qui est l'Esprit Saint. Très curieux. Bon, je vous signale ça comme ça, je vous lance ça pour que vous réfléchissiez un petit peu. C'est pour vous montrer que quand on vit du Verbe incarné, du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu, on vit une expérience de lumière, de vérité, de contemplation, d'amour et de don mutuel. Radicalement différent de ce qu'on vit quand on vit de cette communion totale avec la troisième personne du Saint-Esprit. Et vous comprenez que lorsque c'est avec Dieu le Père, c'est encore tout autre chose. Mais ça, c'est, tout ça, c'est des préambules, parce que jusqu'à maintenant, j'essaye d'introduire le point de vue des sacrements, n'est-ce pas ? Je m'excuse de faire autant de détours pour répondre au sacrement, enfin, on est obligé. Donc, je mets. Donc, vous voyez bien ici que le point de vue ici de la vie chrétienne, au niveau racine fondamentale, c'est de faire, vous voyez, qu'il y ait cette incarnation à travers nous. Et le point de vue ultime et final, c'est qu'il y ait cette glorification en nous. Et toute la vie chrétienne, c'est d'être tendu comme un arc entre les deux. Vous allez me dire, c'est bien. Alors, comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que ça va se faire? C'est ça qui est fantastique. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, voilà. Jésus. Va nous donner des sacrements. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Dans tous les sacrements, je coupe pas mal d'intermédiaires, parce que sinon ce serait beaucoup trop long, je devrais partir à partir de l'écriture, mais sinon on n'en finira pas. Alors, Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme, lumière incarnée. Ça va? Vous me suivez? Il y a quelque chose de tout à fait formel, une forme et une matière. C'est la rencontre de la matière et de la forme. Qui fait l'incarnation. Le Verbe se fait chair. Ça, c'est l'incarnation. Et vous voyez qu'il n'y a qu'une seule personne humaine dans le Christ. Il n'y a qu'un seul homme, un homme unique dans le Christ. Or, le Christ veut réaliser une unité substantielle avec lui. Je m'excuse pour le terme, mais il est très important. Ce n'est pas une unité. C'est pas une unité autre que substantielle. C'est une unité vraiment très très forte avec lui. Alors comment est-ce qu'il va faire? Parce qu'on est des milliards d'êtres humains. Comment faire qu'il y ait effectivement cette espèce d'extraordinaire unité, mais vraiment réelle et éternelle en même temps? Donc ça va impliquer notre corps, ça va impliquer notre cœur, ça va impliquer notre intelligence, ça va impliquer aussi le point de vue de la très sainte Trinité. Pour réaliser cette unité, il va inventer le mystère de l'Eucharistie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. Chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, répété 17 fois. Ça c'est net, hein. De toute façon, vous voyez toute l'écriture, on doit passer par le mystère de l'Eucharistie, point à la ligne. C'est le partage des eaux. Hein. Pas compliqué, le grand partage des eaux, c'est ça. C'est pas toi, t'as fait des miracles, pas toi? Bon, non, c'est pas ça. T'as fait des merveilles, t'as été adultère, t'as pas été adultère, c'est pas ça. C'est pas le problème. Ça veut pas dire qu'il faut être adultère. N'allez pas dire que je vous ai enseigné qu'il faut être adultère. Non, mais. D'ailleurs, on en a vu. Bon, alors la fin, elle va dire. Un jour, il va inventer les sacrements. C'est pour ça que tous les sacrements vont impliquer forme et matière. Et c'est pour ça
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tous les sacrements vont impliquer forme et matière. Tous. Parce que il prolonge, une fois que Jésus est ressuscité dans sa chair, dans la gloire, c'est-à-dire sa gloire est parfaitement pénétrante et pénétrée des trois personnes de la très sainte Trinité dans leur gloire, alors à ce moment-là, il peut diffuser dans l'omniprésence sa chair. Puisque vous savez que par la résurrection, le corps de Jésus est physiquement présent partout où la très sainte Trinité est présente, premièrement. Et deuxièmement, son corps est partout présent où il y a de la matière, dans la création. Physiquement. C'est extraordinaire. Et du coup, il peut réaliser les sacrements. Il peut réaliser les sacrements. Il ne peut pas le faire sans la liberté, la foi et la grâce. C'est sûr. Mais les sacrements vont faire que l'incarnation de Jésus se prolonge. C'est une réincarnation, si je puis dire, n'est-ce pas ? C'est pas une réincarnation, puisque c'est l'incarnation de Jésus qui perdure dans le temps, tandis qu'elle inspire l'Esprit Saint dans l'éternité. Les deux mouvements de l'incarnation après la résurrection, elle inspire l'Esprit Saint dans l'éternité et elle perdure dans le temps. Alors, c'est pour ça qu'il invente donc les sacrements. Et comme l'homme, vous voyez que c'est l'homme dans l'incarnation qui est glorifié, qui inspire le Saint-Esprit. Et comme c'est l'homme qui est dans cette gloire de spiration, ça veut dire spiration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit émane et produit par la nature humaine, physiquement comprise aussi, de Jésus. Évidemment, bon, c'est des mots, hein. Si on le contemple pas, c'est que des mots. Hein. Il faut le contempler, ça. Si on ne contemple pas, ça ne sert à rien, je peux dire. Hein. Mais c'est énorme de dire ça, si on réfléchit un tout petit peu. C'est énorme. Mais si c'est trop compliqué, vous m'arrêtez là. Hein. C'est-à-dire que vous dites que si vous dites que c'est trop compliqué, si vous ne suivez pas, vous ne suivez pas, vous allez me baisser un peu parce que. Hein. Alors, mais simplement, vous voyez bien que il veut. Alors, il se trouve que l'homme en Dieu, l'homme Jésus, Jésus glorifié, ça reste un homme. Et donc, les sept dimensions de l'homme sont dans Jésus ressuscité dans la gloire. Les sept dimensions. Les sept dimensions de l'homme. Vous voyez, qui sont sur le tableau et qui commandent toute l'ouverture du tableau. Les sept dimensions de l'homme. C'est à cause de ces sept dimensions de l'homme qu'il va falloir que Jésus produise à travers tous les êtres humains. Que Jésus sauve l'homme tout entier. Il veut non seulement le sauver, mais il veut le purifier, le guérir, l'élever, le sanctifier et le glorifier. Les cinq étapes. Mais il doit le faire pour tout l'homme qui est en nous. Donc pour toute notre vie contemplative, enfin des gens, pour tout notre corps, pour toute notre intériorité, là, pour toute notre vie affective, nos amours, et dans les amours, les 33 degrés de profondeur de l'amour, tout, n'est-ce pas ? Et toute notre vie de responsabilité par rapport à la communauté, par rapport à la famille, au monde social, vous savez, la communauté dans laquelle on est, ou le pays, ou le monde, ou l'humanité. Enfin bref, les sept dimensions de l'âme. Et tout l'aspect religieux qui est en nous, qui sont tout ça, ce sont des aspects naturels, humains, horizontaux. C'est horizontal. Il y a des gens qui disent, mais moi je vis à la verticale puisque je suis religieux. Mais non. Pas du tout. C'est très horizontal d'être religieux. C'est très humain. C'est... Oh, c'est bien. Oh, moi je suis. Mais non. C'est marrant parce que les gens ne comprennent pas ça. C'est terrible. Le jour où vous comprenez ça par expérience, il faut que ce soit expérimentalement. Hein. Ah. Et pourtant. Je me suis approché de Dieu et j'ai eu vraiment une expérience très très forte de Dieu. Et j'ai compris que ça dépassait complètement. Ah ben oui, mais est-ce que c'est pas une expérience métapsychologique que tu as fait? En fait, si ça t'arrive, viens me trouver, on en discutera. Hein? On en discutera. Hein? Bon, je ne mettrai pas sur les juste pour voir, c'est tout. Bon.
pas pour t'accabler, hein. Mais point de vue religieux, sensible et horizontal. N'oublions jamais ça. Celui qui croit qu'il fait une expérience, ah, j'ai vécu quelque chose. C'est horizontal. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est capital, ça. Et c'est parce qu'on est dans un monde qui est complètement athée qu'on croit que on a crevé un plafond. Mais pas du tout. C'est naturel, c'est normal. Mais le point de vue surnaturel de la grâce, alors là, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Et donc, comme Jésus est dans l'éternité, dans l'omniprésence, dans la simplicité des trois personnes divines, dans la bonté, dans la perfection, dans l'unité, et dans cette spiration, dans cette contemplation, dans cette fusion, dans cette sponsalité de la Sainte Trinité, qui est glorieuse, là, qui l'est avec son corps, son cœur, son intelligence, sa peau, son intériorité humaine, c'est normal, puisqu'il veut nous inspirer et nous faire rentrer, nous faire partager ce qu'il vit éternellement, il est normal qu'il utilise cette grande source de salut, de d'illumination, de purification, de guérison, d'élévation, de sanctification et enfin de glorification. Ça va? Vous me suivez? Bon. Vous me suivez? Oui, parce que c'est pas d'un seul coup que ça se fait, évidemment. Parce que la grâce implique la vie divine. Et la vie implique la croissance. Et donc ça ne se fera jamais d'un seul coup. Si vous dites tant un truc vous tombe sur le crâne, ça y est, je suis arrivé. Après. Venez me voir, on s'expliquera. Hein? D'accord, pareil. Donc, c'est pour ça, comme il y a ces sept dimensions, de Jésus ressuscité, eh bien, à ce moment-là, c'est sûr que pour qu'il y ait cette incorporation, voyez, de chacun d'entre nous dans la résurrection, eh bien, il faut qu'il y ait ces sept sacrements. Alors, vous voyez, le problème, c'est qu'il y ait, par exemple, que d'un seul sacrement. C'est déjà pas mal, remarquez bien. Si j'ai déjà un petit bout de bois, c'est pas là-haut. Si j'ai déjà un bout de bois, c'est déjà pas mal. Mais enfin, remarquez bien qu'il faut être un sacré escaladeur pour remonter à tout le reste. Pour un sacré muscle. Non, enfin, je suis sûr que bon Dieu aidera quand même. Mais on n'est pas arrivé avec un seul. Enfin, uniquement les. Vous comprenez, ça c'est facile à comprendre. Je m'amuse peut-être un petit peu, je ne devrais pas. Non, c'est vrai, je ne devrais pas, c'est sûr. Bon, en tout cas, vous avez. Eh bien, chaque sacrement implique une matière et une forme à cause de ça. Ça va? Une matière, une forme qui s'unissent par le pouvoir du Jésus. C'est un pouvoir divin de Jésus qui réalise à chaque fois un prolongement, une création, une recréation du mystère de l'incarnation pour chacun d'entre nous. À chaque fois que vous êtes devant un sacrement, vous êtes devant quelque chose, comme dit, comme le disent par exemple les pères de l'Église, comme Saint Irénée, etc. C'est quelque chose de plus grand que la création des origines, où Dieu crée le ciel, la terre, la lumière, les plantes et les arbres. C'est plus grand. C'est une recréation, c'est une ré. Hein, une œuvre créatrice de Dieu. Hein. Mais il crée pas quelque chose de naturel, il crée quelque chose de surnaturel. C'est plus grand que toute la création. C'est pour ça, si tu dis, ah, la grand-mère, elle dit, oh là là, elle n'a pas respecté les traditions, ma fille, elle n'a pas baptisé son gosse au bout de 10 jours. C'est, bah, elle prie pour lui. Mais surtout, elle dit qu'elle ne fasse pas un acte, n'est-ce pas, sacramentaire. À cause de ça, en disant c'est terrible, à ce moment-là, il y a un problème. Tu comprends, tu saisis, j'espère, le problème. Bon. Alors, pour chaque sacrement, et si vous voulez comprendre les sacrements, donc il y a une matière, une forme, et puis cinq fruits. Ah, normal, sept, on retrouve toujours sept. Hein. Ah.
à la résurrection, Jésus fait une pêche miraculeuse, il demande de compter, ça fait 153 poissons. Ça veut dire simplement que si tu aimes le Dieu unique, si tu es tourné vers celui qui t'a créé, si tu veux retourner vers celui qui t'a créé pour en vivre éternellement, tu vis tout simplement d'un aspect religieux qui est naturel. Fais gaffe parce que tu risques de te casser les dents. Parce que tu n'arriveras pas à escalader une si grande pente, n'est-ce pas, par toi-même. Alors, il faut que tu ailles atteindre Dieu réellement. Si tu vas atteindre Dieu réellement, tu atteins vraiment les personnes, mais il y en a trois. Donc, pour passer de 1 à 3 dans l'amour et la connaissance et la prise de Dieu, il faut passer par 5, c'est-à-dire il faut passer par la grâce. Il faut passer par les sacrements. Et s'il faut passer par la grâce, il faut donc passer par les sacrements. Ça, c'est l'enseignement des apôtres. Et quand vous dites, quand les apôtres disent la première colonne c'est le mystère de l'incarnation, il prolonge, c'est évidemment le point de vue donc de notre incorporation Dieu. Dieu se fait corps humain pour que nous, notre corps, s'incorpore en Dieu. C'est facile à comprendre ça, hein? Il ne s'est pas incarné comme ça, Dieu. Ah, oh, je m'incarne, Dieu. C'est rigolo, j'ai fait une petite expérience. Comme nous, on aimerait bien une petite souris de chaboté. Ah, je me transforme en petite souris. Et puis, hop, je deviens un homme après. C'est rigolo. C'est pas pour ça que Jésus s'est incarné. Dieu ne joue pas. C'est pas un jeu. Je suppose que vous comprenez. Bon, alors, il faudrait faire l'application de cela, n'est-ce pas, pour les 7 sacrements. Je vous rappelle que les 7 sacrements, c'est premièrement l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la clé de voûte de tous les sacrements. Et le sacrement fondamental, de base, c'est le baptême. Donc le point de vue fondamental, le point de vue ultime. Et entre les deux, 5 sacrements, voilà, qui prennent, j'allais dire, qui sanctifient, qui glorifient, qui permettent à notre pauvre corps humain, à notre pauvre nature humaine, qui est rien du tout, de pouvoir avoir une fécondité universelle, surnaturelle, réelle. C'est-à-dire, nous sommes des rédempteurs. Et le point de vue de la rédempteur, c'est que nous sommes source de grâce pour tous les êtres humains. Et il faut que ce soit dans les 7 dimensions de l'homme. Commencer à comprendre pourquoi le peuple de Jésus a si peu de fécondité. Parce qu'il ne vit pas tellement des 7 sacrements. C'est pour ça. Alors, commençons par le sacrement de baptême. Le sacrement de baptême, donne, il y a la matière du sacrement de baptême, vous savez, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est-à-dire, ça exprime en même temps notre bonne volonté. Il faut qu'il y ait notre bonne volonté. L'eau. Vous voyez, un canard, hein, il y a de l'eau. Ça va changer en face. C'est-à-dire que notre bonne volonté qui aspire à Dieu comprend, au bout d'un certain temps, mon Dieu, c'est ça. Ben oui, mais Dieu est au-dessus de tes opinions, parce que Dieu n'est pas une idée. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous priez, quand vous faites oraison, vous allez avoir quelquefois des doutes, une petite parenthèse sur du point de vue de la foi. Vous voyez, parce que si vous faites de l'oraison pendant une demi-heure, vous laissez Jésus souffler l'Esprit Saint. À ce moment-là, toutes vos idées sur Dieu qui sont fausses, parce que Dieu n'est pas une idée. Ça, c'est pas une idéologie, la vie chrétienne. Et bien, à ce moment-là, elles sortent. Et du coup, ça vous met des doutes. C'est très bon d'avoir des doutes. Si vous n'avez pas de doutes, ça prouve que l'Esprit Saint ne travaille pas. Mais c'est ces doutes, ces idées sur Dieu qui sortent. C'est extraordinaire. Je laisse. C'était juste pour quelques instants, je disais ça. Bon, voyez bien. Donc il faut l'eau. L'eau, la matière, l'eau, qui exprime aussi le point de vue du désir de l'homme de vivre de quelque chose qui le dépasse complètement, c'est-à-dire de Dieu lui-même. La bonne volonté qui désire vivre de Dieu
par Dieu. Et de Dieu, non pas par moi, mais par Dieu. Je veux vivre de Dieu par lui-même. Et non pas à partir de moi. Ça, c'est la matière. L'eau. Mais pour ceux, si vous baptisez avec du sable, si tu trouves un homme d'hiver, il n'y a pas de flotte, il y a dans le désert du nord, je ne sais pas, il me semble que c'est dans le nord qu'il y a dans le désert. Je ne voudrais pas me tromper, mais il me semble que c'est dans le nord, là-bas, là. Là-bas. Je crois que. Bon, il n'y a pas d'eau. Pas de chance. Bon, qu'est-ce que tu fais, hein? Tu vas prendre du sable, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et bien il n'y a pas de sacrement. Parce qu'il n'y a pas. Dans les sacrements, on doit respecter exactement la matière choisie par le Rédempteur pour le sacrement. Or, il a dit l'eau. Pour l'Eucharistie, il a dit du pain et du vin. Donc si vous prenez du riz, ça ne marche pas. Même si c'est le pape. Même si c'est le pape. Le pape qui prend du riz en disant il n'y a pas de riz, désolé, je décide en tant que pape que et c'est du riz. Voilà. On est en Chine, il n'y a pas de pain, je prends du riz. Le pauvre pape, il va dire, et puis il n'y aura pas de transubstantiation. Parce que la matière n'est pas respectée. Alors c'est pas l'homme, ni la culture de l'homme, ni les conventions de l'homme qui décident de la matière et de la forme des sacrements. C'est Dieu qui en décide. Et si on ne respecte pas la matière des sacrements, ça veut dire qu'on ne respecte pas l'incarnation du Christ. Et donc qu'on ne respecte pas le mystère de la résurrection. Et donc on ne risque pas de trouver quelque chose qui nous permette de rentrer dans la résurrection. Alors, l'eau et la forme, il y a une forme, la forme du sacrement de baptême, c'est cette parole, ce verbe, cette parole surnaturel qui passe par la bouche humaine de celui qui donne le baptême, où c'est Jésus qui va se servir de celui qui va baptiser et qui passe à travers sa bouche pour dire lui, c'est Jésus hein, qui baptise, hein, qui va dire Jésus à travers sa bouche si tu baptises par quelqu'un qui crève dans un accident, si tu rentres à Avignon, je ne veux pas faire ça, vous avez un accident, il agonise, il va mourir, bon, il n'est pas baptisé. Alors à ce moment-là, tu vas le baptiser, tu vas prendre de l'eau, puis tu vas le baptiser, mais ce n'est pas toi qui le baptiseras, c'est Jésus qui passera à travers toi, qui servira de toi comme d'un instrument, comme il s'est servi de ton nature humaine comme d'un instrument, il servira de toi comme d'un instrument pour dire je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est toujours Jésus, c'est Jésus qui s'incarne, c'est Dieu qui s'incarne, c'est pas toi qui te divinise, c'est Dieu qui s'incarne. Et cette parole n'a pas été inventée par les hommes, il y a combien de théologiens qui disent le sacrement c'est une invention d'une institution, c'est pas du tout. C'est incroyable que des théologiens disent ça, ça veut dire qu'ils n'ont jamais lu la Bible, jamais lu la Bible. Pour le baptême, en tout cas, c'est une évidence criante. Parce que la dernière parole de Jésus, la dernière sur la terre, qui connaît la dernière parole de Jésus sur la terre?
D'ailleurs, je reviens
Oui, je reviens mon énergie.
Bon, 0 sur 20. La dernière parole de Jésus, quand il est parmi nous sur la terre. 0 sur 20. 0 sur 20.
Mais
c'est après la résurrection. Oui, il est sur la terre, juste avant l'ascension, allez porter la bonne nouvelle à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il s'éleva dans les cieux, etc. La dernière parole. Et il y a des gens qui vont dire c'est une invention de l'Église. C'est dingue. Ah, mais je vous assure que quelquefois, il y a de quoi se battre les tempes. Hein. Alors, vous avez donc, l'Église n'invente rien. L'Église, c'est un instrument de Jésus. C'est le prolongement de l'incarnation de Jésus. Si moi, un jour, j'invente quelque chose, Dieu sait que je pourrais le faire. Bon. Hein? Je peux vous dire que c'est foutu pour moi. Bon. Et je fais tout mon effort, justement, pour ne rien inventer. C'est tout l'effort. Parce que ce soit toujours Dieu qui passe. Et je respecte. Or, Dieu a tout accompli. Jésus l'a dit. Tout est accompli. Donc, si j'invente quelque chose, je suis forcément anathème. Comment dire ? Je suis forcément contre. Forcément. Ça veut dire que je me mets au-dessus. Donc tout mon effort de chrétien, c'est de faire que ce qui a été gardé dans le cœur des saints se prolonge. Ce qui a été gardé dans le cœur immaculé de la Vierge, tout l'enseignement de Jésus, pendant 36 ans. Parce qu'on l'oublie un peu celle-là. Hein? Alors, vous comprenez ? Ici, je te baptise. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. À chaque fois, c'est une parole de Dieu. Mais au lieu que ce soit le Verbe, c'est le Verbe incarné. C'est la parole du Christ qui se prolonge et qui réalise une réincarnation. Vous voyez bien que si vous supprimez les sacrements, Dieu, dans sa providence, a voulu justement que notre vie intérieure se prolonge dans cette réincarnation de Dieu. Si je refuse les sacrements, vous sentez bien que je vais avoir besoin. C'est à cause de ça qu'il y a la réincarnation. Pour tous ceux qui ne vivent pas des sacrements, pour eux, la réincarnation ne pose pas de problème. Parce qu'il faut un substitut. Il coupe la tête du Christ. Vous voyez, on a coupé la tête de Louis XVI. La manière de couper la tête du Christ, là, c'est de refuser les sacrements. Guillotine. C'est très simple. Parce que le corps mystique du Christ, comme Jésus le dit, c'est lui, c'est la tête, et nous, les membres. Alors, si je refuse les sacrements, forcément, je vais faire appel à quoi ? À un Christ cosmique, tu vois, la tête, qui est partout diffusé, et puis des réincarnations, quoi. Un cycle de réincarnation. C'est à cause de la logique humaine qu'on parle de réincarnation. Hein ? Je vous l'ai déjà, il faudra que je vous explique ça une autre fois, peut-être beaucoup plus en détail de ça. Pour expliquer le processus mental par lequel j'accepte l'idée. C'est une idée en logique, hein, pour le coup. C'est une idée. Hein. C'est toute une logique. Mais Dieu n'est pas dans la logique. Dieu est dans la réalité. C'est pas pareil. Il ne faut pas oublier que la logique, c'est la préférence entre notre intelligence et notre imaginaire. Alors si vous avez déjà fait des cauchemars, vous allez vous rendre compte que l'imaginaire n'est pas tout à fait la réalité. Et si la réincarnation est quelque chose de logique, ça n'est pas forcément la vérité. Et si nous écoutons Jésus, nous voyons que ça n'est pas la vérité. L'homme ne vit qu'une fois, épître 7, chapitre 5, je crois, ou 9. Il ne meurt qu'une fois, point à la ligne. Ça se discute pas dans la Bible, la réincarnation. Par contre, les sacrements, ils y sont. Alors qu'on vient de pas me brosser. Bon, alors donc vous avez ici. Alors ici. Non, mais c'est vrai, parce que. Bon, alors voyez bien. Ici, à chaque fois. Donc matière. Alors, quels sont les cinq fruits du caractère du sacrement de baptême ? Parce qu'à chaque fois, cet aspect est dans les. Vous voyez comment on pourrait me démultiplier de tableau, hein ? Parce que pour chaque sacrement, un nouveau test. D'accord ? Alors, les cinq. Alors, j'espère que vous le savez, là. Quels sont les cinq résultats, les cinq conséquences, si vous voulez, du caractère du baptême ? Le baptême, alors, premièrement, il vous pardonne, il vous lave, il vous purifie des tâches, des fautes, de la culpa, comme on dit en latin, n'est-ce pas ? De la faute, des tâches, on est éclaboussé. Et même, on est complice. Et même, on a un atavisme qui vient, j'allais dire, la chair et du sang. Vous voyez ce qu'on appelle le péché originel, et puis il y a toutes nos. On est complètement éclaboussé. Vous voyez, il y a une grande fêlure métaphysique en nous. Et donc, Jésus, par le caractère du baptême, premièrement, nous lave de la faute. Vous voyez, notre âme est comme une lumière extraordinaire, vivante, qui est au centre de notre intériorité, qui se diffuse dans l'intériorité pour épanouir de manière vitale toute notre harmonie intérieure personnelle. Et bien, à l'intérieur d'âme, quand je suis face à des enfants, je leur dis. C'est comme un buvard. Si tu prends un stylo à encre, tu fais comme ça fait des taches, ça traverse tout. essaie toujours de l'enlever avec des faciles, tu ne pourras pas. Dans un buvard, tu ne pourras pas. Jésus, lui, par le caractère du baptême, enlève toutes ces tâches. Et remplace cette espèce de corruption, ce cancer, cette putréfaction, cette espèce, souvent, j'aime bien comparer ça à une espèce de scellement, un péché, si vous voulez, mais un péché originel aussi. Hein. On en parlera un jour de péché originel, parce que souvent c'est mal compris. Hein. Mais vous voyez, comment c'est une espèce de trou en vous, et on scelle dans le béton un espèce d'immense anneau, n'est-ce pas? Et vous voyez, quand l'âme se sépare du corps, tant que cet anneau est là, les puissances intermédiaires, les puissances de ténèbres, peuvent s'accrocher à cet anneau pour vous tirer là où ils veulent. Il faut que ces anneaux soient tous desserrés. Alors, par le baptême, vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a aucune trace de péché en nous. Jésus demande absolument qu'on soit immaculé. Et c'est pas vous qui vous rendre immaculé, croyez-le bien. C'est évident, c'est juste d'avoir un petit. Donc, premier effet du baptême, purification, immaculation. Guérison, si vous voulez, pardon, je ne sais pas comment on va dire, de l'âme. Le péché est totalement effacé. Ça va? C'est facile à comprendre. Bon. Ça veut dire que les puissances de ténèbres, autant j'ai toutes les puissances de l'athéisme militant, si vous voulez, qui est autour de nous, que des puissances de ténèbres, vont avoir moins de prise sur nous. Et au contraire, il y aura une espèce d'extraordinaire, il va remplacer ça, si je puis dire, par une espèce de démentation pour l'amener vers lui, voyez. Et ici, c'est un but, si je prends la parabole du buvard, je dis ça pour ceux qui font du catéchisme aux enfants, si vous prenez le buvard, il remplace ces taches qui étaient vraiment moches, hein, et au lieu que le buvard soit blanc comme avant, n'est-ce pas, et bien à l'endroit où il y avait les taches, ce sera au contraire à la place de c'est de lumière glorieuse à la place des tâches. C'est très beau de voir que si vous avez le péché, il ne faut jamais se désespérer, il faut se laisser prendre par l'incarnation du Christ concrète, réelle, traduite sacramentelle. Alors à ce moment-là, il non seulement il enlève le péché, mais il remplace les trous du péché, la corruption de la faute et des tâches par de la gloire. Par toute la gloire. Et de sorte que si vous n'aviez pas péché, vous seriez probablement moins glorieux que si vous aviez péché, si vous êtes passé par la miséricorde de Dieu. Ça ne veut pas dire que vos péchés attirent les rigots. Hein. Et évidemment, parce que vous voyez, si vous rabattez au niveau moral, ça veut dire allons-y. Ça veut dire simplement il faut vivre de la miséricorde de Dieu. Mais si je ne fais pas péché, je n'ai pas vu de la miséricorde. Et justement, c'est ce que Jésus nous apprend par un autre sacrement, que si je ne fais pas de péché, eh bien, je peux vivre encore plus de la miséricorde. Mais les gens l'oublient, hein, tu vois. C'est pour ça que, et du coup, ils sont beaucoup plus glorifiés. Vous voyez, donc, on ne peut pas faire tout en même temps, mais simplement ici, comprenez que le baptême, premièrement, nous lave de nos péchés et nous et fait que, vous voyez, il n'y a plus cette faute. Deuxièmement, le baptême nous donne, mais dans ce réceptacle qui est en nous, dans notre intériorité de l'âme, il met quoi? Il met la grâce sanctifiante. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que la grâce? Alors, je fais un petit exercice d'intériorité, vous voyez. Petit exercice d'intériorité, je vous rappelle, je crois que j'ai fait la dernière fois, sauf erreur, n'est-ce pas, puisqu'on a regardé à la fois la montée de la vie intérieure. On a regardé l'intériorité dans l'ordre de la lumière, passer des énergies à la lumière vivante. Hein, on a regardé ça. Hein. Comment est-ce qu'on fait? Il y a la différence avec l'intériorité contemplative. Hein. Ça va? C'est encore présent dans votre mémoire, c'est les deux dernières lignes du tableau. Donc, vous voyez bien. Vous simplement fermez les yeux. J'étais l'autre jour avec des Mongoliens, ils étaient 15, et je leur ai fait ça. Donc vous voyez, c'est pas en dehors de votre portée. Et je sais
c'est très grave. Ça, je peux vous dire, parce qu'on le voit quelquefois des certains signes, jusqu'où ils vont. Il le sait très bien. Si vous fermez les yeux, vous voyez qu'il y a toute une intériorité en vous, des pieds jusqu'à la tête, il y a toute une vie intérieure. Vous la sentez bien. Est-ce que vous avez atteint votre âme? Non. Vous avez atteint votre intériorité. Comment, à partir de cette intériorité, cette vitalité, cette chaleur, cette lumière que vous sentez bien à l'intérieur, ce grouillement, comment atteindre là? Rassembler votre intelligence pour essayer de saisir qu'au centre même de cette intériorité, en ça même de votre moi, de votre ego, il y a une lumière vivante, une source de vie qu'on appelle l'âme, qui fait l'unité de toute votre intériorité, et puis en même temps qui fait vivre tous les aspects de votre intériorité. Et il faut que vous appreniez à vous engloutir, à pénétrer à l'intérieur de votre âme. L'âme, c'est au plus intime de votre intériorité, au plus intime de l'intime de votre intériorité, cette source de vie qui, en vérité, est une lumière vivante. Est-ce que vous avez atteint Dieu? Non. Vous vous êtes atteint vous-même. Combien de gens disent « Ah, j'ai fait une expérience spirituelle, mystique, extraordinaire. » Et ils n'ont atteint qu'une petite émanation, peut-être, de leur âme. Combien de fois j'ai parlé avec des bouddhistes, des tibétains, qui viennent me voir à l'Ermitage. Alors moi, je prends mon pied. Bon. Une fois que vous avez situé votre âme, il faut s'entraîner à ça. Si vous ne vous entraînez pas à ça, vous allez vous faire coincer. Il faut s'entraîner à ça. Si vous vous préparez au mariage, par exemple, sachez bien que un des aspects du sacrement de mariage consiste à pouvoir se posséder parfaitement dans son âme. Sinon, je ne peux pas donner et faire pénétrer mon âme dans le corps de celui que j'aime. Et donc, je ne peux pas actualiser le mariage. Eh bien, c'est à l'intérieur, cette source, cette lumière vivante, ce centre le plus intime de votre intériorité, dans ce nid de lumière vivante, que, par le baptême, Jésus dépose la grâce sanctifiante. Et la grâce sanctifiante paraîtra, c'est aussi une lumière vivante. Vous voyez le problème? Parce que là, c'est cette lumière vivante qui est la racine, le principe même de lumineux et de vie qui actue, rappelez-vous toujours cette formule, qui actue votre diaphane intérieur. Je vais l'écrire pour que, quand vous passerez le bac, vous ne fassiez pas une erreur, vous étiez un peu d'orthographe. C'est l'âme qui actue, votre diaphane intérieur. Le diaphane, qu'est-ce que c'est que le diaphane? Mais, vous voyez, c'est très important de respecter les mots, hein, l'air de rien. Qui active votre diaphane, parce que si vous avez mis un F, vous aurez l'air idiot. Hein. Bon. Qui active votre diaphane intérieur. Ça veut dire qui d'abord qui fait vivre, qui donne cette vitalité, cette profondeur, cette grandeur, cette noblesse, mais en même temps et surtout, qui donne cette extraordinaire complexité, cette extraordinaire diversité, cette extraordinaire richesse, ce foisonnement, ce grouillement, et en même temps, mais surtout, qui en fait l'unité raciale.
le diaphane. Elle active le diaphane intérieur. Dès que vous êtes dans votre art, vous êtes dans une unité totale. Mais c'est une lumière vivante, naturelle. C'est vous, autant que vos yeux. C'est aussi réel que vos yeux, que vos oreilles, n'est-ce pas ? Que votre intelligence et que votre vie affective. C'est autre chose. C'est pas séparé, mais c'est tout à fait distinct. Eh bien, la grâce, c'est également une lumière vivante qui est au plus intime de Dieu et qui actue tout le diaphane intérieur de la très sainte Trinité. C'est très fort. C'est très, très fort. Et la grâce qui est en nous, pourquoi est-ce qu'on ne l'appelle pas ? Or, il se trouve que cette lumière vivante qui donne l'unité à toute la très sainte Trinité, les trois personnes et l'unité, sont, parce qu'il y a trois et un, il y a un problème, alors ça fait quatre en tout. À cause justement de cette lumière vivante qui est à l'intérieur de Dieu, ces quatre, en réalité, ces trois plus un ne sont qu'un. Parce que c'est une unité radicale, on appelle ça la gloire. Mais nous, nous ne recevons pas la gloire, quand nous recevons la grâce. Pourquoi ? Parce que c'est bien cette lumière-là qui actue tout le diaphane intérieur. Mais toute la très sainte Trinité, tout Dieu n'est pas, je veux dire, n'est pas dans toute sa puissance présent en nous. Ça va ? Et donc, c'est une participation, épître de Saint-Pierre. Une participation formelle à la nature de Dieu. La nature humaine, c'est l'âme qui fait la nature humaine, âme spirituelle. La nature de Dieu, c'est la gloire. C'est cette lumière vivante qui fait cette unité du diaphane intérieur divin et éternel. C'est extraordinaire, mais c'est une participation. Ça va ? C'est une participation. Eh bien, cette lumière qui actue le diaphane intérieur de Dieu par le baptême est transplantée en nous quand on met du vin dans de l'eau. Dans notre âme. Vous voyez ça ? Et ça, c'est la grâce sanctifiante. Deuxième fruit du baptême, nous recevons cette grâce sanctifiante. Et on peut la perdre. Hein. C'est ça le problème. On peut très bien la perdre. C'est une faute volontaire, lucide, en disant, vous perdez cette grâce sanctifiante, ça redevient de l'eau. Parce que, vous comprenez bien que ce qui active le diaphane intérieur ne supporte pas une putréfaction. Ça disparaît, alors ça redevient de l'eau. L'eau mélangée au vin redevient de l'eau, parce que Dieu est toujours libre quand même. Mais enfin, il ne demande qu'une seule chose. La seule chose qu'il ne supporte pas, c'est de mélanger à la putréfaction. Donc, simplement, on peut perdre la grâce. Ça, c'est vrai. À ce moment-là, il y a une espèce de tâche qui revient dans l'âme. Et c'est pour ça qu'heureusement, il y a d'autres sacrements. Bon, alors, on pourra y revenir. Mais c'est bien foutu, je vous dis. Jésus, il a bien pensé son machin. Alors, comment on dit ça ? Il a bien pensé son truc. Alors, tu vois, 2, 1, 2, il donne la grâce. Ah, ce qui est central ici, dans les fruits du sacrement de baptême, c'est que, vous voyez bien, je ne reçois qu'une seule fois mon baptême. Et je dis, bref, si c'est perdu, c'est comme si je n'avais rien fait. Non, c'est pas comme si je n'avais rien fait. Je reçois dans mon âme ce qu'on appelle un caractère. Je reçois. Je reçois un caractère. Le caractère du baptême. Qu'est-ce que c'est que le caractère ? Ah !
Vous voyez que c'est quand même vachement riche le sacrement de liberté. Non, je suis désolé. Qui est-ce qui a mon capuchon ? Quelqu'un me l'a appris tout à l'heure. Est-ce que ça sèche ? C'est pour ça que je. Ben, je sais pas, il n'y a rien à faire, il a disparu. Bon, tant pis. On le jettera à la fin. Bon, vous m'en achèterez d'autres.
Bon, alors donc, le caractère du baptême. Alors que je vous explique ce que c'est qu'un caractère du baptême. Le caractère du baptême est indélébile. Il ne t'en va jamais. Même si vous allez, j'allais dire, dans la réprobation éternelle, ce qu'on appelait, ce que Dante a appelé l'enfer, n'est-ce pas ? Mais, le caractère du baptême ne s'effacera pas. Vous garderez le caractère. C'est quoi un caractère ? Le caractère, vous voyez, c'est une puissance de vie. Ah ! C'est quoi une puissance de vie ? Je vous ai déjà dit, vous avez les yeux, vous avez une puissance de vision. Vous pouvez ne pas vous en servir, la puissance de vision. Comment est-ce qu'on se sert d'une puissance de vision ? En se réveillant complètement et en mettant toute son âme à voir quelque chose avec ses yeux. Toute son âme. Et j'ai bien parlé de toute son âme. Et on n'en utilise pas beaucoup. Toute son âme à écouter. J'ai une puissance auditive. Toute son âme à écouter le chant des oiseaux, le bruit du vent. Et si c'est possible, le bruit des pétales de la rose qui pousse. Une fleur qui s'ouvre fait un bruit. Tu ne l'entends pas consciemment, mais elle fait un bruit et tu peux le recevoir. C'est vrai. Bref, tu as une intelligence, c'est aussi une puissance. Tu peux chercher la vérité si tu veux. On a toutes sortes de puissances comme ça en aujourd'hui. Je peux contempler la vérité une fois qu'elle est là. Par exemple, je découvre qu'il y a le point de vue de l'être, le point de vue de l'âme. C'est deux choses différentes. En moi, il y a l'être, j'existe. Et puis il y a l'âme. Je vois la différence radicale entre les deux. Alors que les deux sont tous les deux sans. Tout à fait centraux. Par l'extériorité, je saisis l'être, par l'intériorité, je saisis l'âme. Et ces deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Là, je contemple la vérité du point de vue de la vie, l'âme, la vérité du point de vue de l'être, de l'existence, l'être. Et je rentre à l'intérieur. Je peux contempler ces choses qui sont immatérielles et qui sont réelles. On ne peut contempler que quelque chose qui est réel. Mais c'est pas parce que c'est visible que c'est réel. C'est pas parce que c'est pas visible que c'est pas réel. Pour ça, je vous ai parlé de la rose qui pousse parce qu'elle fait un bruit, elle fait réellement un bruit, même si tu l'entends pas. Elle fait réellement un bruit. Si j'avais des instruments extrêmement perfectionnés, je pourrais entendre le bruit de la rose qui pousse. Ça, c'est sûr. Tout le monde comprend ça, je suppose. Donc, nous avons en nous des puissances vitales. Par exemple, j'ai une puissance, j'ai un cœur, j'ai une puissance affective. Je peux aimer, toutes ces puissances sont en moi. Je peux très bien aimer, me laisser attirer par un autre que moi. Et faire que toute ma vie, ce soit l'autre, ce soit pas moi. Je peux, avec toutes les puissances que j'ai, les utiliser ou ne pas les utiliser. Tout ça, c'est ce que je viens de vous expliquer, ce sont des puissances naturelles. J'ai une puissance, par exemple, de raisonnement, la raison est une puissance. Je peux m'en servir, je peux ne pas m'en servir. Donc j'ai toutes sortes de puissances en moi, qui sont naturelles. Et bien, le caractère du baptême met en moi une nouvelle puissance. On appelle ça un caractère. Et cette puissance va faire que je peux faire quoi ? Que je peux faire des actes personnels à moi qui les ferai de foi, d'espérance et de charité surnaturelle. Des actes de foi surnaturelle. La foi surnaturelle, c'est un acte de l'intelligence qui reçoit précisément la lumière surnaturelle de la foi pour contempler des mystères qu'elle ne peut pas contempler. La foi. Je peux faire des actes. Si j'ai reçu le caractère du baptême, même si c'est 20 ans après et que j'ai fait ça de péché, que j'ai plus la grâce, je peux quand même faire, quand je veux, des actes de foi. Quelqu'un qui n'est pas baptisé ne peut pas faire des actes de foi, d'espérance surnaturelle théologale quand il veut. Ça peut lui arriver qu'il en fasse, hein, à condition qu'il y ait quelqu'un dans l'église de Jésus qui prie pour lui
et qui est tellement uni à lui intérieurement qu'il fait surgir la grâce sanctifiante qui est en lui, qu'il la fait surgir dans son âme à lui par la solidarité de la prière, et à ce moment-là, le temps de cette solidarité, il peut faire un acte de foi. Mais par lui-même, il ne peut pas. C'est trop compliqué ce que je viens de dire. Vous avez saisi ça? Bon. Mais vous, vous avez le caractère du baptême, vous pouvez faire un acte de foi quand vous voulez, surnaturel. Pour faire un acte de foi humain, je crois que tu existes, ça. J'ai pas besoin d'avoir le baptême pour ça. Hein? Il suffit simplement de ne pas être bouché. Alors voyez, donc le caractère du baptême. Faire des actes de foi surnaturels. C'est très important. L'espérance. L'espérance, vous savez ce que c'est? Et j'ouvre mon âme en disant, Seigneur, j'ai une confiance totale qu'en ce moment, tu précipites sur moi un déluge de grâce, de vie divine. J'ai une confiance totale qu'en ce moment, une plénitude de grâce dévale sur moi. Et c'est un pouvoir que j'ai. Hein. Et Dieu obéit, c'est ça qui est incroyable. Le caractère du baptême fait que Dieu va m'obéir. Quand vous dites au chien, au pied, caractère de baptême, vous pouvez faire ça avec le bon Dieu. Et le bon Dieu ne demande que ça. C'est une ouïe. Bon, allez. Alors, caractère du baptême. Bon, quels sont encore ici les deux autres fruits du baptême? Bon, quand même, vous êtes tous cathos. Catéchisme, allons, la théologie, allons. Qui est-ce qui peut me dire quels sont les deux autres fruits du baptême? Hein? Faut pas exagérer. Si vous n'êtes pas capable, vraiment, je vais me pendre, moi. Il n'y a aucun qui est capable de me dire quels sont les deux autres fruits du baptême.
Ça nous fait intégrer le corps du Christ. Ça nous fait intégrer, moi, participant à la vie du, de l'Église, quoi, de l'Église. Du corps du Christ, quoi.
C'est pas mal. C'est pas mal. Et vous êtes, on va prendre celui-ci, c'est qu'il me fait rentrer dans l'église. Effectivement, il me fait rentrer dans l'église. Il me fait rentrer dans l'église, c'est-à-dire qu'il me fait rentrer dans le corps mystique du Christ. Jésus est la tête, et nous sommes les membres. Vous savez bien qu'il y a cinq parties dans le corps mystique du Christ, je vous le rappelle. Vous avez Jésus ressuscité, vous avez ceux qui sont déjà ressuscités avec lui par leur corps. Qui est-ce qui est ressuscité avec lui par leur corps? L'Immaculé, mystère de l'Assomption. Réalisant ainsi, vous le savez bien, la prophétie de la Genèse, l'homme quittera son père. Incarnation, Jésus s'incarne, il quitte son père. Et sa mère, rédemption, sur la croix, il quitte sa mère. Il s'attachera à sa femme, Pentecôte, et les deux ne font qu'une seule chair, glorieuse Assomption. D'accord? On est là. Vous avez donc Jésus dans son corps et dans sa divinité, Marie dans sa plénitude de grâce, de gloire et dans son humanité. Vous avez tous les saints qui sont au ciel dans la vision béatifique, l'Église glorieuse, on appelle ça. Vous avez tous ceux qui sont dans la purification au cas de la mort et qui ne sont pas encore rentrés dans la vision béatifique, l'Église souffrante. Et vous avez tous les baptisés en état de grâce. Ça, c'est le corps mystique du Christ. Nous avons une seule vie. Et une multitude de membres. Eh bien, le caractère du baptême fait que physiquement, j'absorbe en moi, je suis en contact physique, mais intérieur, mais physique, avec tous ces êtres humains-là. C'est prodigieux. Je fais partie du corps mystique de Jésus. Ceci est aussi dans l'Écriture. Je suppose que Thierry Dana, moi, qui a utilisé tout ça. Je n'invente rien. Croyez le bien. Bon, alors, si un jour vous en doutez, dites-moi mon père, où est-ce que c'est dans l'Écriture? Bon, je vous dirai, ne vous inquiétez pas. Bon, alors, vous savez, je fais partie du corps mystique de l'Église, corps mystique de Jésus, un seul corps, mystiquement, c'est-à-dire, en fait, nous avons une seule grâce, puisque c'est ce qui est le diaphane à l'intérieur de Dieu, qui vit dans tous ces gens-là. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc il y a effectivement une unité du diaphane intérieur du corps mystique du Christ, une seule vie, et puis plusieurs personnes, oui.
C'est une avalanche de régresse d'un groupe.
C'est une, oui, c'est bien sûr, parce que moi, c'est une avalanche, je dirais. C'est une, en fait, tu vois, c'est pas, tu comprends bien que ce ne sont pas des réincarnations. Ce ne serait pas juste de dire ça au niveau du corps mystique. En fait, c'est plutôt je préfère incorporation. C'est une inglorification, juste exactement. Tu vois, puisque ce n'est pas Dieu qui se réincarne, c'est nous qui nous pénétrons dans la glorification. Donc tu vois, c'est l'homme qui est, que Dieu rend glorieux, rend Dieu. Ça va ? Sans supprimer l'homme, évidemment. Bon, et le cinquième aspect, et je tiens à vous dire que le cinquième aspect est l'aspect principal du baptême. C'est pour ça que je vous fais monter sous la terre, n'est-ce pas, si vous ne me dites pas. C'est l'aspect principal du baptême. Quel est l'aspect principal du baptême? Et que je n'ai pas dit ici. Le fait qu'il y ait une matière et une forme, je dis que c'est important.
Est-ce que c'est un
sacrement? Hein? Ah, c'est un sacrement, oui. Ça, ici, le sacrement, c'est ça, matière et forme. Alors, quel est l'aspect principal du baptême?
Il marque la filiation divine.
Ah, c'est pas mal. Oui. Oui, mais oui. Oui, mais tu vois, c'est la grâce qui fait que tu as la filiation divine. Tu reçois la grâce, donc tu as la vie divine. Et aussi l'incorporation dans le corps mystique du Christ, qui fait que c'est le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, qui actue tout le diaphane intérieur du corps mystique du Christ, et qui est le Fils, nous sommes tous ensemble, le Fils unique du Père. C'est pour ça qu'on dit notre Père. On ne dit pas mon Père. Alors, c'est quoi? L'habitation de la présente Trinité. La présente Trinité habite dans notre âme. Non, puisque ça, c'est la grâce. Alors, c'est quoi? C'est dans l'écriture, hein? C'est classique, hein? C'est archi classique. Je vous ai dit combien de fois que tous les sacrements et la religion chrétienne, c'est la religion du
corps.
La religion du corps. Le baptême est une, voilà l'aspect principal et final du sacrement de baptême, c'est une incorporation dans le corps mort et ressuscité du Christ. Incorporation de notre corps dans le corps mort et ressuscité du Christ. Incorporation. Exactement comme quand vous mettez, vous voyez, une... je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça. De l'eau dans la farine. Incorporation. Pour faire une seule farine. De mon corps dans le corps mort et ressuscité du Christ. Mort. Et ressuscité du Christ. Mort. Où est-ce qu'il y a eu un corps mort et à la fois ressuscité? Ah, je vous pose une question.
Oui?
Non.
Non.
Le corps mort et ressuscité. À quel moment? Hein? Où est-ce que tu vois le corps à la fois mort et ressuscité?
L'Eucharistie,
est-ce que c'est un corps mort et ressuscité? Non, l'Eucharistie, c'est le corps de Jésus tel qu'il est actuellement. Or, il est ressuscité. C'est au moment où Jésus est mort sur la croix. Au moment où Jésus est mort sur la croix, que son cœur a été ouvert, Saint Jean et l'arrêt de l'Esprit Saint envers Saint Jean dit bien que c'est à ce moment-là qu'il était mort, comme corps, et en même temps que son âme spirituelle humaine était dans la résurrection, donc il vivait la résurrection dans son âme humaine, dans sa nature humaine, sauf le corps, il était à la fois mort et ressuscité. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint est donné. L'Esprit Saint. Donc, incorporation, vous voyez, ça veut dire que, tout simplement, vous voyez qu'ici, c'est plus l'âme, d'une certaine manière, c'est que vous devenez le lieu de la plaie mortelle du cœur du Christ. Or, c'est pour ça que, vous voyez, quand vous avez l'unique apparition du Christ après... dans l'histoire de l'Église, ça paraît moniale, vous savez, il est apparu, il a montré son cœur, et il a montré, si vous voulez, toute sa nature humaine glorieuse, et il y avait évidemment les marques dans cette apparition, dans les mains, dans les pieds, mais ces marques étaient ces
ces plaies étaient séchées, si vous voulez. Tandis que la plaie du cœur, qui est la seule plaie mortelle,
nous sommes le lieu de l'ouverture du cœur. C'est là que Jésus peut pénétrer. Je suis la porte. Toute l'humanité est dans la grâce du Père. Et c'est en même temps de là que le Père et le Père incarné pire et envoie. Et nous sommes ici par le baptême dans ce lieu au centre même physique du cœur ouvert du Christ sur la croix, et ça, c'est tout le mystère du livre de l'Apocalypse qui nous en déploie toutes les conséquences. Ah,
c'est bien gentil de savoir qu'on a un caractère, qu'on se lâche, qu'on est un peu obligé, mais comment est-ce qu'on fait, j'allais dire, pour rentrer dedans, pour mettre tout ça, voyez, parce que vous voyez bien que le baptême nous transplante, c'est une transplantation, nous transplante dans le cœur ouvert de Jésus crucifié. Voilà le point de vue final du caractère du baptême. Nous sommes transplantés dans la blessure d'amour victorieuse de tout, de Jésus mort et ressuscité. Une transplantation. Et comme toute transplantation, quand vous transplantez une plante, eh bien, elle a besoin de beaucoup de terre, de beaucoup d'eau et de beaucoup de soleil. Ça veut dire que c'est une terre qui se cultive. Ça veut dire que nous devons rentrer dedans. Comment est-ce qu'on va faire pour rentrer dedans? Je peux très bien recevoir le baptême, et après, si ça va, c'est fini, j'ai reçu le baptême. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est juste ça. Le baptême fait ça. Le gosse qui est la foi ou qui n'est pas la foi, il reçoit tout ça. Hein, les gens qui disent, mais le gosse n'est pas conscient, donc... le baptême ne vaut pas. Hein? Allez, par exemple, ici c'est le petit, ça. Il a reçu le baptême. Hein? Nous sommes tous témoins, tous ceux qui l'ont connu. Maintenant, il est mort, c'est combien? 300 maintenant? Elle a reçu le baptême, elle est morte à quel âge? 5 ans? 4 ans et demi? Nous sommes tous témoins qu'avant même de parler, elle vivait de manière visible de tout. Oui. C'est extraordinaire la sainteté. Hein? C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ne pouvaient pas approcher parce qu'elles les regardaient, ils voyaient immédiatement ce qu'elles lisaient dans leur âme.
Elle priait.
Ça c'est sûr. Bon, mais ça c'est sûr qu'elle ne voyait pas Marie à l'extérieur, comme certains enfants le voient avant de pouvoir parler. Elle ne voyait pas Dieu à l'extérieur d'elle-même, quand certains enfants le voient. Mais c'était tout intérieur. C'est ça qui est extraordinaire chez elle. Hein? Donc vous voyez bien que ce n'est pas une question de maturité. Hein? C'est très très simple. Le sacrement opère efficacement. Vous voyez, la définition des sacrements, du point de vue théologique, c'est de dire un sacrement est un signe efficace. Tandis qu'une bénédiction est un signe, mais ce n'est pas un signe efficace. C'est un signe qui est efficace qu'en fonction de la foi de celui qui le donne ou de la foi de celui qui le reçoit. Alors, vous voyez bien que le sacrement ici du baptême, comment est-ce que je vais faire pour vivre du sacrement du baptême? Et c'est une transplantation, il faut donc de l'eau, il faut beaucoup d'eau et il faut beaucoup de soleil. Voilà ce que je vous dis. Vous baptisez quelqu'un et que vous balancez dans le monde, il va crever. Parce que si vous transplantez une plante n'importe où, vous crevez la terre, vous faites la terre, vous faites la terre, et là, même si c'est une belle plante, très promettante. Vous voyez, vous baptisez quelqu'un, comme ça m'est arrivé, un certain garçon, je ne vous dirai pas son nom, je crois qu'il y en a quelques-uns qui connaissent, entre vous, on l'a baptisé, on l'a préparé au baptême pendant un an, on l'a baptisé, il avait 25 ans, et on l'a préparé d'ailleurs au monastère pendant 6 mois. Il a fait une vie monastique pendant 6 mois, c'est un bon préparation baptême. Et puis après, il est parti. C'était moi le parrain. C'est Dame Marie Dominique qui l'a baptisé. Bon, il est parti à Paris, mais il est resté seul. Vous voyez, il est resté seul. Mais sa foi, j'allais dire. Il ne voulait pas. Il dit non, non, je continue tout seul. Je prends des cassettes, je prends des bouquins. Et, il a lu plus de bouquins que moi. Hein. En l'espace de 2 ou 3 ans, il a lu plus de bouquins patristiques que moi. C'est-à-dire qu'il était capable de dévorer la théologie. Et en 3 ans, je peux vous affirmer qu'il a lu à peu près 2 fois plus de bouquins patristiques que moi. Moi, pour saint Thomas, il me faut 7 ans pour lire saint Thomas. Lui, il m'a dévoré saint Thomas en 3 mois. Toute la Sainte-Bouche. Eh oui. Il est d'accord. Voilà, juste la sagesse. Se communique dans le corps, au sein du Christ. Et il faut qu'il y ait des relations personnelles. Il faut de la terre, il faut de l'eau, il faut du soleil. Sinon, la plante ne vit pas, effectivement. Il est tombé. Il est revenu à l'islam. Il faut dire que c'est pas de sa faute parce que il a fait ce qu'on peut dire à un prêtre. Le prêtre lui a dit. Si vous n'avez, si ça ne réussit pas, vous n'arrivez pas à avoir un examen, vous n'arrivez pas à avoir un ordre familial, vous n'arrivez pas à ceci, vous n'arrivez pas à cela, ben je vais dire, je veux bien vous retourner à l'islam. Non, c'est pas grave. Alors, quand j'ai appris ça, vous comprenez, c'est moi le parrain. Je me suis dit, ça, on peut faire, de te faire coincer contre un mur par le Saint-Esprit, parce que c'est pas le parrain. Alors du coup, je me suis dit, bon, allez, je me suis mis à dire, j'appelais toujours pour lui. Et puis, 15 jours après, je reçois une lettre de lui. Et puis, il me dit, ah, j'ai eu des difficultés, si, là, etc. Et puis, finalement, je lui ai dit, on s'est téléphoné. Et j'arrive à avoir son téléphone. Et puis, je suis revenu à la messe tous les jours, car tous les jours, j'ai commencé à chaque jour. C'est pour vous dire, voyez. Qu'on a besoin d'eau et de soleil. Voyez bien. Le baptême ne peut s'épanouir que dans une communauté au fond vivante. Voyez. Et puis, avec la prière. C'est pour ça que la manière de vivre du caractère et de la grâce du baptême, la seule manière, c'est de faire oraison. C'est la seule. Comment est-ce qu'on fait oraison? Voyez bien, parce que je vous ai expliqué que le baptême nous donne un caractère qui fait que je peux faire de l'acte de foi, l'espérance et l'amour surnaturel, théologal, divin. Quand est-ce que vous faites ça? Uniquement quand vous vous arrêtez, que vous pénétrez à l'intérieur de vous-même, que vous laissez le silence, la présence de Dieu en vous s'épanouir librement et que Jésus, dans son cœur blessé, souffle l'esprit et vous met ce que souffle dans ce souffle. Et si vous ne vous arrêtez pas chaque jour, pendant une durée de temps, parce que si c'est juste un moment, ça ne peut plus continuer, ce ne sera jamais un acte de foi théologale. Ce sera un moment d'adoration. Pour qu'il y ait un théologal, il faut qu'il y ait une réactualisation, une liberté donnée à Jésus de souffler. Et donc il faut une durée. Et si vous vous arrêtez, par exemple, vous allez à la messe, vous avez un moment où vous dites, ah Seigneur, je crois que tu es là, etc. Ah Seigneur, je communie à toi, etc., etc., etc. Vous savez, vous faites une succession d'actes d'adoration. Mais ce ne sera pas juste d'actes de foi, d'espérance et de charité surnaturelle. Le seul moyen, c'est de faire oraison. Donc, vous ne faites pas oraison, ça veut dire que vous ne vivez pas du baptême. Voyez bien, et donc, si vous reprenez, c'est excellent de prendre dans votre oraison ce que nous venons de dire. Reprenez dans votre oraison ceci. c'est que nous avons vu dans l'horizon, d'abord, un s'arrête. C'est notre temps, à nous, humains, qui s'arrête. Et on laisse ce temps brûler pour Dieu. Hein, je dis que le premier fruit du truc, le premier fruit, c'est de nous retirer du point de vue du péché. Le point de vue du péché sépare le temps de l'éternité. Et donc, l'oraison fait que, volontairement, une fois dans ma journée, je fais rejoindre le temps et l'éternité. Et pour ça, il faut que ce soit du temps. Et si vous ne commencez pas par là, vous n'aurez jamais une expérience de l'oraison. Donc, jamais le baptême ne pourra se déployer en vous, dans toute sa richesse et dans toutes ses perfections. Tout à fait quantité. Et donc on commence par donner du temps. Le péché consiste à séparer le temps d'éternité. L'oraison, c'est-à-dire le baptême, nous permet de faire que le temps, notre temps, est brûlé dans l'éternité. Ce qui se passe à l'intérieur de l'oraison, je vous en supplie, n'y faites pas attention. Faites attention uniquement à ceci. Que vous décidez de donner du temps à Jésus, au Père. C'est du temps brûlé pour Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis, décidez avant de commencer, ça durera jusqu'à telle heure. Si le téléphone sonne, vous vous en fichez. Si le gosse vient, vous vous en fichez. C'est écrit très bien, laissez-le, ça fortifie son hiérarchie. Oh, faites attention, qu'il n'y ait pas quelque chose sur le feu.
Ah oui, je vais vous arriver.
De toute façon, vous inquiétez pas, c'est quelque chose sur le feu. Peu importe, vous comprenez, il ne faut pas être idiot. Mais simplement, ce qui compte, c'est que c'est le temps. Vous voyez bien, c'est le temps qui est donné à Dieu. Hein? Ce qui se passe dedans, vous inquiétez pas. Je dis 20 minutes, allez, dans 20 minutes, je suis resté pendant 20 minutes, et puis à la fin des 20 minutes, je dis, j'ai tout fait sur le vie de Dieu alors. Ton oraison est parfaite. Tu as donné du temps. L'oraison, c'est le seul moyen de vivre du baptême. Allez, l'entrée dans le baptême, c'est l'oraison. Je ne dirais pas la même chose pour l'Eucharistie. Hein. Et il faut comprendre absolument que je dois vivre du baptême tous les jours. Même si je ne vis pas 24 heures, 24 de mon baptême, donc j'ai au moins une petite pincée. Hein? Alors mettez au moins 3 heures, quoi. Non, vous n'y arrivez pas. D'accord. 2 heures. Quand je vous pensais de finir. Bon, si vous êtes très sous-développé, vous me donnez. Et si vraiment ça vous étrangle, alors à ce moment-là, bon, un quart d'heure. Je vous donne du temps. Si vous ne faites pas dans la journée, ça m'est égal, je reste 65 euros un quart d'heure, c'est complètement égal. L'essentiel, c'est que vous teniez du temps. Et l'oraison commence par ceci. Premièrement, allez, on va laisser ça tomber. Hein. C'est bien top. Bon, on prend les autres fois, les autres sacrements, d'accord hein? Allez. Bon. Bon, ceux qui sont intéressés par l'Eucharistie, je l'ai déjà fait. Je vous ai fait méditation biblique sur l'Eucharistie, à partir de l'Écriture, les sept aspects de l'Eucharistie, n'est-ce pas? Au point de vue corporel, physique, temporel, vital, intérieur, sacramentel, surnaturel, etc., etc., et glorieux. Bon.
Vous
pouvez me laisser
comme ça
qui... Voilà. Je vous l'ai déjà fait. Je vous l'ai déjà fait il n'y a pas longtemps, c'est tard devant moi. À toi, si je pars pour les chiens, et on va voir. Ah oui, tu devras ton propre piège, vas-y. Quels sont les 5 fruits du quartier?
Déjà fait. Il y en avait deux déjà dans la vie.
nous permet de...
Bon, d'abord, un, la matière, le pain et le vin. La forme, la consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Bon, le premier fruit de l'Eucharistie, c'est quoi? C'est la présence. Une présence réelle.
Vous avez fait
tout ça? Oui, c'est pour ça, c'est ce que je dis, on l'a fait, ça. Non, mais tu l'as sur tes notes de Saint-Saturnin.
Oui.
Je vous ai fait le tableau avec je suis, le pain de vie, je suis. C'est les sept je suis que vous avez sur le tableau.
Oui.
Vous voyez, les sept je suis, regarde, vous avez ici. Les sept je suis. Les sept je suis dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6 à 11. Hein? Les sept lumières du Christ crucifié aujourd'hui, au milieu de la page à peu près. Un peu au-dessus du milieu de la page. Les sept je suis. Vous avez je suis, donc présence réelle. Premier fruit du sacrement, présence réelle. C'est une transsubstantiation. Je suis. C'est une transsubstantiation. Le fruit du sacrement de l'Eucharistie, c'est présence réelle. Présence réelle du corps. Je suis. C'est vraiment l'incarnation de Jésus qui se prolonge pour nous. Bon. Je suis la porte. Je suis la porte. C'est le sacrifice de la croix de Jésus, le Golgotha, se plante physiquement, réellement, dans le lieu dans lequel se réalise l'Eucharistie, réellement, physiquement, sous mode de substance, il y a séparation du corps et du sang du Christ. Hein. Le sacrifice de Jésus, je suis la porte. C'est à travers ce sacrifice de Jésus qu'on peut rentrer. Je suis la porte. Et si on voyait avec nos yeux ce qui se passe réellement à chaque Eucharistie, on verrait, si on voyait réellement, mais en loin, donc par la foi, eh bien on verrait le Jésus crucifié sur le Golgotha qui arrache son âme de son corps, qui déchire son cœur, qui sort l'eau, le sang, les poussins. Je suis la porte, le sacrifice de Jésus qui est réellement renouvelé, réactualisé. Et je vous assure que vous pouvez taper des trompettes, à antenne 1, TF1, je veux dire, antenne 2, FR3, etc., et dans le monde entier, en disant, la patrie va tirer une messe ici, vous allez voir, tout le monde pourra venir, et ils verront le Golgotha tel que ça s'est réalisé, et ce sera vrai. Et voilà, donc il y aura 6 milliards de personnes, les gens vont voir ça, ils vont venir à toute leur télé, etc., et je tirerai la messe, tout ça. Et je dis, voilà, c'est vrai. Et pourquoi les gens ne viennent pas? Pourquoi ils ne viennent pas? Ils sont bêtes ou quoi? Monsieur la porte, vous avez ensuite. C'est sûr. Bon, vous avez ensuite, je suis. Eh bien, je suis le pain de vie, tout simplement. Je suis le pain de vie. C'est qu'à partir du moment où vous mangez, vous êtes à ce moment-là. Incorporé, si je puis dire, dans le corps de Jésus, et le corps ressuscité de Jésus, lui, est dévoré par le Père. Jésus est dévoré. C'est-à-dire le Verbe éternel de Dieu, même avant qu'il ne s'incarne, ne cesse d'être assimilé par le Père, puisque le Père contemple son Père. Quand Dieu se contemple lui-même, quand Dieu contemple Dieu, Dieu assimile Dieu par la voie contemplative. Je suis le pain de vie. Et donc nous sommes absorbés et nous nourrissons le Père. Le Père se nourrit son Fils à travers nous. Je suis le pain de vie. Il y a une assimilation contemplative de la Sainte Trinité qui assume toute notre son Verbe à travers nous. Et du coup, nous sommes. Vous voyez ce que disait Padre Pio, donc c'est peut-être la spiritualité du sandwich. Hein. Et on est coincé. Il y a l'Eucharistie d'un côté, Jésus ressuscité de l'autre, et nous au milieu de la communion. Et puis le Père dévore, voulant dévorer son Verbe, bah, n'est-ce pas? Il y a l'Eucharistie, et nous en vont au milieu. On est dévoré par le Père. Pour produire quoi? Dissolution des espèces sacramentelles, à la disposition des dissolution des espèces sacramentelles dans notre digestion, la matière du sacrement disparaît, et il reste quoi? Il reste la res sanctum, c'est-à-dire que il reste quelque chose d'autre. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. que du coup, il peut laisser quoi? Il peut laisser la présence.
Au lieu que ce soit la présence physique, sous mode substantiel, du corps, ressuscité de Jésus, avec cette mendication éternelle du Père qui se nourrit et assimile toute la nature humaine et la nature divine du Christ dans la gloire, et nous qui communions à travers, et bien, du coup, comprenez bien que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, il se passe un truc absolument extraordinaire, il se passe que. Il se passe que, quand les espèces sacramentelles disparaissent en nous, l'espèce sacramentelle c'est quoi? C'est Jésus, hein? Il se passe qu'il y a une digestion, oui. C'est une digestion qui est divine, qui est trinitaire. Et cette digestion fait que, il n'y a plus qu'un seul corps. Et le corps de Jésus, c'est plus le corps de Jésus qui. Le corps de Jésus disparaît, puisque le sacrement disparaît par notre propre digestion à nous. Mais c'est simultané à une digestion trinitaire, si vous voulez, qui fait que si le corps de Jésus disparaît, il laisse à la place quelque chose de plus grand. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Et ce quelque chose de plus grand, c'est que si le corps de Jésus disparaît, c'est qu'il reste présent, une autre présence réelle. Plus grande encore que celle du corps de Jésus, c'est le corps de Jésus et de ses membres. C'est-à-dire que physiquement en moi, il y a une présence physique de tout notre être. Vous voyez, c'est une manière totalement différente que dans le caractère du baptême. Ça, c'est par la médiation d'une mendication de la présence de Jésus. Et du coup, comme je vis ça, je vis d'une charité parfaite à tous mes frères. Et du coup, il y a cette possibilité pour l'Esprit Saint d'être envoyé dans le monde. Cinquième aspect de l'Eucharistie. Il est évident que l'aspect ultime de l'Eucharistie, c'est cette charité par rapport à tous nos frères. Et cette charité, c'est qu'on est un. À expirer dans la très sainte Trinité de manière eucharistique, pour qu'à travers cette expiration de l'Église, l'Esprit Saint soit envoyé dans le monde. Et voilà pourquoi il faut faire l'action de grâce. C'est les cinq fruits de l'Eucharistie. Bon, faites vous-même la recherche de toute façon. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, puisque l'Esprit Saint est là. Faites vous-même la recherche. Réfléchissez, demandez au Saint-Esprit de vous montrer. Alors oui, donc, je reviens ici. Vous comprenez bien que ici, le caractère du baptême me pousse à l'oraison. Si je parle du sacrement de mariage, bon, la matière du sacrement de mariage, c'est que l'amour d'amitié entre l'homme et la femme et atteint un degré de profondeur suffisant, qu'il ait crevé le 21e plafond du degré de profondeur de l'amour de l'homme et de la femme, pour que ce soit au moins un amour déjà qui soit une communion personnelle. Sinon, pas de sacrement. Bon, je vous ai promis que je vous ferai un jour les 33 degrés d'amour, hein, pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que c'est que la matière du sacrement de mariage. Pour que vous soyez lucide en disant encore, ah, je vais me marier, je l'aime, hein, je te vois très bien. Je te dis doucement, hein. Il n'y a pas encore la matière. Hein. Ça peut te le dire. Ça, je suis expert. Alors, vous voyez? Et puis, la forme, ça commence. Bon. Alors, pourquoi est-ce que je parle de l'homme et de la femme? Ah oui, oui, tout simplement parce que pour actualiser le sacrement de mariage, donc la forme du sacrement, ça y est, le sacrement est là. Divinisation de cette unité conjugale, cette communion de personnes, à partir du sacrement de mariage, comment je vais le réactualiser? Vous voyez bien que ici, c'est pas le sacrement de mariage qui va me faire que je vais vivre une fois que j'ai reçu enfin, l'oraison. Vous voyez bien, c'est le contraire. C'est l'oraison qui prépare la messe conjugale. Mais il y a un ordre différent. Si je vis d'abord l'oraison, à ce moment-là, je vis l'Esprit Saint. Ce souffle de l'Esprit Saint. Cet amour si pur. C'est extraordinaire. Voilà. Et puis, nous actualisons une messe conjugale dans cet état, vous verrez que l'union conjugale sera parfaite. Donc l'oraison précède la messe conjugale. Pour l'Eucharistie, l'oraison termine l'Eucharistie. Pour le baptême, ça ne termine pas. C'est l'oraison qui réactualise le sacrement.
Oui.
C'est pour ça que donc on va venir à l'oraison. Pour vous montrer que tous les sacrements, l'oraison va jouer un rôle. Donc je reviens sur l'oraison et alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire d'oraison?
Peu cher. Alors.
Oui, j'avais fait avec les jeunes de Route Clergeois qu'on avait ici après Compostelle, j'avais fait un jour un week-end sur l'esprit de virginité. C'est avec l'esprit de virginité, c'est ce conseil évangélique qui permet à notre foi de devenir de plus en plus limpide, de plus en plus contemplatif. Bon. De plus en plus contemplatif. Bon. Alors, dans l'esprit de virginité, évidemment, vous verrez si vous réécoutez les cassettes sur l'esprit de virginité, ce que je vous conseille évidemment très très fort, n'est-ce pas, puisque quels sont les moyens de faire que notre foi devienne de plus en plus limpide, de plus en plus surnaturelle, de plus en plus contemplative, c'est l'esprit de virginité. Si vous voulez regarder l'espérance, comment faire, bon, vous avez aussi des cassettes sur l'esprit de pauvreté, prenez-les, écoutez-les, c'est très important. Mais en tout cas, dans l'esprit de virginité, j'expliquais ceci, où nous essayons ensemble de comprendre ce que c'était que l'oraison. Et reprenez ça. On disait par exemple, l'oraison et la foi dans l'esprit de virginité nous permettent de passer de la méditation simple de l'enfant aux actes ardents de la vie théologale, c'est-à-dire les actes de l'ami, pour rentrer dans une soif surnaturelle, soif immaculée, soif totale, permettant de donner une liberté absolue, soif contemplative, et de rentrer dans cette vie de l'épouse. Voilà ce que fait l'esprit de virginité. L'esprit de virginité, c'est que mon oraison m'arrache à la méditation, m'élève de manière à ce que ça devienne une vie théologale, surnaturelle, et après que cette vie théologale laisse au Saint-Esprit cette liberté de déploiement intérieur en moi. Et j'aimerais reprendre ça avec vous aujourd'hui. Je trouve que c'est bien de faire ça, après tout, puisqu'on a commencé ce baptême. Terminons comme ça. Vous voyez bien qu'ici, enfin je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, vous avez la grande progression mystique, spirituelle, de Saint Jean, Jean l'Évangéliste, l'apôtre préféré. L'apôtre préféré devait avoir certainement eu une mère particulièrement étonnante. Puisque Jésus dit à propos de lui et de son frère que ce sont des Boanerges, c'est-à-dire des fils du tonnerre. Une force. Or, vous voyez bien, quand il a rencontré, quand il était voir Jean-Baptiste, il avait 15 ou 16 ans. Mais quand il était sur les bords du lac de Galilée avec son père qui était pêcheur, et sa mère se mettait particulièrement contemplative. Très contemplative. Alors, vous savez que la foi, ça n'est pas la babine. La foi vous donne une espèce d'élan prodigieux. L'esprit de virginité, c'est pas la vieille fille. Mais pour tout. Pas du tout. C'est l'élan. Je crée tous les plans. Je vois que j'ai un mal de foi. C'est de la violence. La contemplative, c'est quelqu'un de très violent. Surnaturellement. C'est pour ça que c'est très violent. Et si le péché, le mal, l'échec me font violence, c'est pour m'appeler à une violence plus grande, plus simple, plus profonde, pour crever, pour que je ne m'habitue pas.
qui n'est pas mordre par l'esprit du monde. Et c'est pour ça que, voyez, Saint Jean, il avait, c'est pour ça qu'il était si extraordinairement pétulant, une perspicacité. On voit bien dans l'Écriture que Jésus le préfère parce que c'est le plus jeune et le plus perspicace. C'est l'aigle. Il y avait une profonde pénétration des mystères, extraordinaire. Et voyez bien, quand il a été éduqué parlant par sa mère, du coup, il avait une très grande, on voit très bien, fils du palais. Au niveau de l'adoration et de la méditation. La méditation et l'adoration, ça va ensemble. Regardez quand vous êtes allumé. Jésus, voilà, on m'a enseigné que c'est ta présence, que c'est toi, que tu trouves tout ton palais derrière, tout ton sacrifice. Vraiment, je le vois, je suis la gorge, j'y crois, c'est quoi? C'est l'adoration et de la méditation. Chrétienne. Il faut que je fasse beaucoup d'actes très violents pour ça. Pour rentrer dans le mystère. Je vois Jésus et je dis, c'est Dieu. C'est pas évident. Quand je rencontre Jésus, je dis, c'est Dieu. C'est pas évident. Parce que c'est pas visible. Hein? Si on rencontre Jésus au cours d'un trottoir, tu dis, ah, tiens, voilà Dieu. Vous êtes à la place. Jean, oui, oui. Pour Jean, pas de problème. C'est quand même extraordinaire. Il a commencé comme ça avec sa mère, vous voyez? C'est ça. Deuxième étape, il se retrouve avec Saint Jean-Baptiste. Il a 15-16 ans. Au désert. Et Saint Jean-Baptiste, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Et il va être formé par Saint Jean-Baptiste. Hein. Saint Jean-Baptiste, attention. Quand vous voyez. Il est généreux, il tente de monde pour tailler. Ça va saigner. Quand tu ne peux pas tailler, hein,
ça sert, hein,
pour monter. Hein, quand c'est quelqu'un là.
Ah, je vais faire moi,
mais. Les fermettes, ils ne sont pas très contents. Ils disent, bon,
encore une loque.
Hein? À condition qu'ils soient contemplatifs. Parce que sinon, on ne recevra pas la taille. Un mariage, c'est pareil, hein. Il y a la taille du Père. Dieu le Père, la taille. Moi, je crois que le mariage, on jouirait. Non, non. Alors, vous avez, c'est bien. La vie religieuse, c'est plus direct, c'est plus rapide, et c'est plus cruel. Hein. Le lieu que ce soit au compte-gouttes, c'est immédiatement là. Bon, alors donc, vous savez, Saint Jean-Baptiste n'était pas commode. Pas commode. Et il dit, il définit comme ceci. Au début, il dit, je suis à... Je suis. Hein, vous voyez, je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le 1, 2, 3. Je suis. Vous voyez? Un seul Dieu crée trois personnes. Je suis la voix qui crie dans le désert. C'est extraordinaire. Et puis, une fois qu'il voit Jésus, il dit c'est l'agneau de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Et que chapitre 5, on avait vu, je crois, il y a deux mois, Saint Jean-Baptiste, tout est dit, il dit, Baptiste, sur là-bas, il a pris le même titre que toi, oh! Et nous, on est tous quelques bambins, tout le monde est parti, il dit quelque chose, c'est mon truc. Le baptême, là, dans l'eau. Jean-Baptiste dit, voilà, il faut que lui il commence, il augmente, moi je diminue. De toute façon, je vais vous dire un truc, moi, celui qui a l'épouse et l'époux, n'est-ce pas? Celui qui a l'épouse, ah, il faut savoir par cœur, hein. Celui qui a l'épouse, chapitre, je crois que c'est chapitre 5, verset 29, sauf erreur. Non, vous n'avez pas de Bible, ou 4, 29. 5, 29, non, je peux tromper. Celui qui a l'épouse est... L'époux et l'ami, lui se définit comme l'ami de l'époux, est ravi de joie.
Non, c'est pas sur l'autre chose.
Alors, bon.
C'est là.
Donc celui qui a l'épouse et l'époux, et l'ami de l'époux, est ravi de joie à la voix de l'époux. Voilà ma joie, elle est parfaite.
Mais l'ami de l'époux, l'ami de l'époux, est ravi de joie à la voix, vous voyez, on retrouve la voix, de l'époux. Alors celui qui a l'épouse et l'époux. Ah,
qu'est-ce que c'est?
Hein? Ça, tout ça, c'est de l'oraison. Hein? Il faut expliquer ce que c'est que l'oraison. Comment il faut qu'on rentre dans l'oraison? Donc, je crois, à partir de l'écriture, c'est mieux, hein, toujours. Hein? C'est mieux. Alors, voyez bien, qu'est-ce que c'est que le désert? Le désert. Saint Jean a appris à partir de l'adoration et de cette contemplation, cette aptitude déjà humaine, perspicace, extraordinaire de l'intimité spirituelle.
Ah, et puis, pour quelqu'un qui est malade, je serai tout seul, hein? Je ne supporte pas les mensonges.
Vous ne verrez jamais quelqu'un de contemplatif mettre l'absolu dans la tolérance.
Jamais.
Parce qu'il sait que l'erreur, vous voyez, la corruption de la vérité, c'est ce qui détruit le plus l'ordre. Alors, comme son prochain, il l'aime, il ne supporterait pas l'erreur, parce que c'est ce qui détruit le plus. Mais si c'est au point de vue humain, ça devient attirant. Ça, c'est clair. Mais si il vit au point de vue humain, tout problème, c'est ce divin. Mais si vous sentez une colère, c'est signe que ce point humain. Là, vous-même. Mais si vous êtes plus triste, plus divin, c'est pour rien. Une compassion, une très grande douleur, mais vous ne tolérez pas l'erreur.
Ni pour vous, ni pour ceux qui sont autour de vous. Alors, voilà, vous êtes obligés. C'est extraordinaire, ça. Qui c'est qui, dans le désert, qu'est-ce qui part? Dans le désert,
Jean-Baptiste apprend à Jean, son disciple. Il aimait bien. Il est toujours à côté de lui, c'est pour ça qu'il dit aussi à Dieu. Hein? Il y avait Jean qui est entré. Jean était toujours là. Moi, j'étais petit chouchou, vous savez, dans les noviciats. Dès que tu dis quelque chose, tu comprends tout. C'est rien. C'est bon.
Alors, au désert, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le désert? Quelqu'un qui est dans le désert, c'est quelqu'un qui accepte d'être sous la seule solitude, sous la seule dépendance de l'Esprit Saint. Se laisser conduire par l'Esprit Saint.
Vous voyez bien, par exemple, on a regardé, on rentre dans le carême, l'évangile du carême, qui ouvre le carême, c'est Jésus, qui après son baptême, l'Esprit Saint le pousse au désert. Le mot grec est très très fort.
C'est ne pas pousser, c'est un mot qu'on exprime pour la bousculade.
Poussé par l'esprit dans le désert, et le désert, qu'est-ce qu'il trouve? La lutte contre le démon. L'esprit saint le pousse au désert, d'être sous le souffle de l'esprit saint. C'est quelqu'un qui accepte d'être sous le souffle de l'esprit saint. Je suis la voix qui crie dans le désert. Le désert, être sous la dépendance de l'esprit saint. Le cri dans le désert. Si vous pensez à quoi, le cri dans le désert? Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, la première fois que vous voyez le mot cri, c'est au moment où Abraham, à cause de Sarah, renvoie sa femme, l'esclave, avec le petit Ismaël. Et le petit Ismaël a juste une gourde d'eau. Lui, c'était son fils, il ne voulait pas, mais Dieu a dit, ta femme l'a dit, obéis à ta femme. Parce que ta femme, Dieu veut, Dieu le veut. Ben, tu te crois arriver, toi, hein? Et du coup, la pauvre Agar se trouve dans le désert, il n'y a rien à boire au bout d'un certain temps, avec du pain et de l'eau. Et il y a des buts, l'enfant finit par avoir ça. Et on entend le cri de l'enfant dans le désert. Elle ne supporte pas le cri de l'enfant dans le désert. Le cri de l'enfant dans le désert. Le cri de soif. Il est uniquement. Parce que si après la tentation, voyez bien, au désert, il y a les trois tentations du démon. Le démon le laissa dans l'attente de son heure. Alors les anges venaient pour l'adorer et le servir. Et l'heure du Christ à la croix.
Le démon revient en tout.
Voyez bien, les prisonniers le poussent au désert pour être confrontés à le Christ. Et si vous regardez en faisant de l'exégèse le texte de l'évangile de Saint Jean, vous verrez, comme d'ailleurs ça a été plus ou moins repris ici, le Christ soit. Le Christ soit, d'après les harmoniques, si vous voulez, du texte, le Christ soit, c'est exactement le pendant au niveau parole du geste de l'ouverture du cœur. Quand la dernière ouverture des lèvres du Christ opère un dernier cri, au niveau du geste, c'est les lèvres de son cœur intérieur. Et ce cri, c'est ça. Le Christ soit. Et je suis. Voyez comment Isaïe, le prophète, avait vu le serviteur souffrant. Et je vous rappelle qu'Isaïe, c'est avant le Christ. Hein. De quoi? Bien avant. Et il a vu le Christ. C'est pour ça qu'il a lisé Isaïe. Hein. C'est fantastique. Il a vu Jésus avant son incarnation. Il décrit Jésus crucifié. Il a arraché la barbe, touché un œil. Il est tellement défiguré qu'on ne pouvait même plus reconnaître que c'était un homme tellement il était défiguré. C'est extraordinaire ces textes d'Isaïe. N'oubliez pas qu'Isaïe a dit que le Messie serait broyé comme ça. Et c'est pour ça qu'on le dit, comment tu dis que le Messie sera mort. Les pharisiens étaient fous contre Isaïe. Il avait beau être prêtre du temple de Jérusalem, du sacerdoce suprême et de race royale. Plus prophète, plus instinct. Ils n'ont pas supporté ça, le mystère de la croix. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, arrête de voir ça. Je suis désolé, je vais vous dire la vérité. Et du coup, il a été martyrisé, on l'a scié avec une scie à bois. Qui est partant? Eh bien, vous comprenez que Jean-Baptiste, d'après l'Écriture, est le plus grand de tous les prophètes. Vous comprenez bien qu'avant de connaître Jésus visuellement, vu qu'il avait connu qu'à travers les entrailles de sa propre mère, à la visitation, avant de connaître, il était évident qu'il vivait cette crucifixion bien plus qu'Isaïe le prophète. Il en vivait tellement qu'il vivait intérieurement, et c'est pour ça qu'il dit « Je suis le Christ, la voix qui guérit, la voix de la présence réelle. » Il vivait réellement cette ouverture. Donc de la rédemption. Jésus. Dans l'oraison, vous voyez, vous donnez d'abord votre temps en ouvrant toutes ces capacités de votre vie intérieure, de manière contemplative, et vous faites que ce temps, deuxième moment, soit donné à Jésus seul. Jésus qui crie. Et sa mère, d'Ismaël, ne supporte pas ce cri d'enfant au désert. Alors elle se met loin, pour ne plus entendre le supporter. Tu m'as touché. Ça permet, en fait, l'immaculée était toute proche. C'est là qu'on voit l'extraordinaire chose de l'immaculée. Et puis elle entend la voix de Dieu qui lui dit, une source, je va la prendre. L'immaculée, elle, c'est pas parce qu'elle s'éloigne qu'elle entend la voix de Dieu. C'est parce qu'elle reste encore plus proche du cœur de Jésus qu'à ce moment-là, un instant de vie jaillit parce qu'elle se rapproche de la question du cœur. C'est extraordinaire ça. Mais en tout cas, tout simplement, vous voyez, je suis la voix. Contemplation, cette lucidité intérieure à rentrer dans ce point de vue de la présence réelle de Jésus. Dans le nid de la grâce qui se loge dans notre âme. Très contemplatif pour aller jusque-là. Et il faut que, d'abord, un, le temps de
Jésus.
En plus, comme c'est ici, d'abord enlève le péché, deuxièmement donne la grâce. Jésus seul. Jésus seul. Il faut que ça soit Jésus seul. Et dès qu'il y a une petite distraction qui vient dans, dans le... Vous avez décidé 28 minutes? Très bien, 28 minutes. Ok, 28 minutes. Mettez le réveil. Le réveil. Si vous êtes... oui, mettez le réveil. Si vous... Très bien. Et les réveils de montre maintenant très bien, vous savez, ils font encore une fois. Bon. Ah, oui, c'est Jésus. Alors, ça c'est au début. Et puis Jésus arrive. Et Saint Jean était très bien formé. Ouais, Saint Jean m'a dit de voir ce qu'il a fait. Il a donné ses meilleurs à Jésus. C'est là qu'on voit la grandeur de Jésus. Quand tu donneras ton enfant au bon Dieu, tu comprendras ta douleur. Tu verras que ça coûte quand on donne ses enfants au bon Dieu. Surtout si par exemple tu as 7 enfants et que les 7 enfants se donnent au bon Dieu. 3 bonnes sœurs, 2 curés et une martyre. Voilà, mais tu auras la grandeur, je vais dire, qui donne le meilleur. Alors, tu vois, celui qui a l'épouse, l'épouse. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui est très très grand. Et à un moment, Jésus arrive, il dit, voici l'agneau de Dieu. Vous savez bien que quand on dit voici l'agneau de Dieu, au point de vue technique, enfin, si je puis dire, au point de vue strict, désigne, vous voyez, dans l'Apocalypse, l'agneau, hein, qui désigne toujours le sacrifice. C'est la première fois que vous voyez l'agneau. C'est Isaac qui dit, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et cette question d'Isaac, pour le sacrifice, qui disait, ça serait percuté, ça serait percuté, ça serait percuté, ça serait percuté dans sa tête pour tout le temps. Tu prendras un agneau innocent d'abord, tout le temps, l'agneau pour le sacrifice. La question d'Isaac, angoissée de l'Isaac. Hein? Abraham qui va le. Où est l'agneau? Et Jean-Baptiste donne la réponse, voici l'agneau de Dieu. Et dans l'Apocalypse, l'agneau de Dieu est dessiné par une plaie. Et tu dis l'agneau de Dieu. Et vous voyez bien qu'ici, il en vit avant de le voir, il désigne, dès qu'il le voit physiquement, il dit, voici l'agneau de Dieu, et à partir de ce moment-là, il n'est plus, je suis la voix qui crie dans les airs, il devient l'ami du pauvre. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est très important, parce que c'est ce qui se passe dans le réseau. Hein. Jésus seul. Jésus seul. Il faut rentrer en lui. Qui est le plus grand, plus profond. Cette ouverture du cœur, cet amour infini qui explose dans le don, dans l'arrachement. Et du coup, dès que vous touchez ça, vous suppliez Jésus, de souffler librement l'esprit. Ah, vous voyez, à ce moment-là, celui qui a l'épouse est l'époux, l'ami de l'époux. Et dans un ravissement, un rapt d'allégresse à la voix de l'époux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Bon, je vous rappelle, mathématiques, hein? Mathématiques modernes, ensemble A, ensemble B. Alors, ensemble A, ensemble B. Ici, on appelle ça A inter B. Vous savez ça. Vous voyez bien. Alors, comme dit le pape Jean-Paul II, ça, dans la très sainte Trinité, l'ensemble A, première personne de la très sainte Trinité, c'est le Père. Mais comme c'est l'image du mariage entre l'homme et la femme, c'est l'époux, c'est l'homme. Celui qui joue le rôle de l'époux, dans la fusion et la communion de l'époux et de l'épouse, enfin, celui qui joue le rôle de l'époux, c'est le père. Celui qui joue le rôle de l'épouse, de la femme, c'est le fils.
Vous voyez bien. Mais il ne peut pas y avoir d'époux et d'épouse s'il n'y a pas de contact. Hein? Il n'y a époux et épouse que quand il y a contact. C'est pour ça que je vous ai fait ici ça, donc j'efface. Le père et le fils sont dans une communion, une fusion. Et la rencontre des deux est, si vous voulez, le fameux une seule chair du mariage. Ça va? On est d'accord? Une seule chair. Sauf qu'en Dieu, il n'y a pas de chair. D'accord? Mais vous voyez bien qu'ici, l'amour et la communion des personnes en Dieu est si total que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe comme ça. L'époux, l'épouse, et du coup, A inter B égale A égale B. Vous avez vu ça? Eh bien, le Saint-Esprit a suscité.
Comment il s'appelle là, en dehors de ça?
Bourbaki. A suscité Bourbaki pour nous faire comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Bourbaki, je suis sûr, ne s'en est pas rendu compte. Parce qu'effectivement, vous avez Dieu le Père, l'époux, Dieu le Fils, l'époux, et l'unité des deux, c'est l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il y a trois personnes et un seul. Et pourtant, vous ne pouvez pas dire que c'est la même chose. A inter B, c'est pas la même chose que A, c'est pas la même chose que B. Donc, vous voyez, ça, c'est ce que je vous avais dit une fois dans un quart, je me rappelle. Donc, je vous le redis ici. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que Jean-Baptiste, lui, comprend le mystère de la Très Sainte Trinité dans l'actuation de cette fusion amoureuse entre le mari et son épouse, traduite entre le père et son verbe. Ils se fondent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils se fondent l'un dans l'autre. Et qu'est-ce qui se passe dans un homme et une femme au moment du mariage? Lorsque, effectivement, c'est toute leur personne, dans l'adoration, dans la fusion de, la, de leur sainteté qui unifie tout, qui se réalise. Lorsque c'est ce qu'on voudrait. On n'y arrive pas dans le mariage, mais c'est ce qu'on voudrait. On peut y arriver, de mieux en mieux. Mais c'est ce qu'on voudrait. Alors, ça implique la crucifixion. Pourquoi? Parce que pour nous, on n'est pas parfait. Donc, ça va impliquer. Il faut absolument qu'il y ait une espèce de mort d'amour. On va souffrir jusqu'à en mourir. Expiration. J'expire dans l'autre. Expiration. Il va y avoir. Il faut que je me laisse attirer par l'autre. Complètement. Aspiration. Il faut que mon âme puisse inspirer et vivifier l'autre. Inspiration. Et enfin, il faut que je ne meure pas complètement, quand même, c'est-à-dire il faut quand même que je respire un peu et que l'autre m'assure la réciprocité, respiration. C'est normal, nous vivons le sacrement de l'époux et de l'épouse à travers le corps et la chair. Et comme le corps et la chair sont constitués par les éléments, les quatre éléments, vous savez, le feu, la terre, l'air et l'eau, n'est-ce pas, les quatre éléments dans Pédote qui sont repris dans toute la tradition, notamment dans l'usage des proverbes et les ecclésiastiques, hein, eh bien c'est normal qu'il y ait ces quatre aspects. En Dieu, vous comprenez que la perfection est atteinte éternellement. Et comme la perfection est atteinte éternellement, voyez bien que le S et le A s'annulent. Et le 1 et le reste s'annulent. Il ne reste plus quoi que la spiration. Il reste une spiration. C'est comme ça qu'on définit dans notre foi la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la spiration du Père et du Fils. Bon, mais vous voyez bien. Attends, je vais t'arrêter. Oui, mais il faut quand même terminer. Hein, parce que je ne vais pas aller là. Oui, c'est vrai. Je vais aller rapidement. Vous voyez bien. Il reste plus que la spiration. Donc vous comprenez bien que tous ces aspects-là vont me permettre de comprendre ce que dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit ceci, celui qui a l'épouse, c'est l'épouse, c'est-à-dire qu'il atteint à travers le cœur de Jésus cette présence distincte du Père, du Verbe de Dieu, dans leur communion d'amour. C'est une mort d'amour du Père dans le Fils, du Fils dans le Père, et cette présence extraordinaire d'un amour glorieux, victorieux de tout. Qu'on appelle spiration, l'Esprit Saint. Peut-être qu'il dit ici, il est l'ami de l'époux, donc de Dieu, le Père. Et il est dans un ravissement de joie, dans la présence du Père. Il a été plus loin encore à travers la blessure du cœur pour rentrer dans cette
dépendante et il a pénétré dans les entrailles du Père. Et il entend le bruissement, non pas de cette fleur, la rose qui pousse, il entend le bruissement de cette vibration éternelle d'amour. L'ami des poux est ravi de joie à la voix de l'être. Il rentre dans la Sainte Trinité à travers le don du Père, dans cette responsabilité éternelle, Jésus de naître en tant que Verbe et en tant que Verbe blessé dans sa chair, pour produire l'Esprit Saint. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui. Voyez bien, quand je vous ai dit, prenez du temps, premièrement. Deuxièmement, Jésus seul. Troisièmement, rentrez dans la blessure du cœur. Incorporation dans la mort et la résurrection du Christ. Rentrez dans la blessure du cœur. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Ben, pour vivre le présent dans lequel. C'est sûr. Pour vivre cette espèce d'extraordinaire amour, charité, éternelle, glorieuse, victorieuse, de tous les obstacles, de toutes les différences. Voyez bien ça. Alors, à ce moment-là, vous suppliez, je vous dis premièrement, prenez du temps, décidez-vous, rentrez là-dedans et dites à Jésus. Pour très contemplatif, pour rentrer dans la présence de Jésus qui est en vous et supplier Jésus de vous envoyer les dons du Saint-Esprit. Je supplie, Seigneur, de me donner le don de sagesse maintenant. Et vous laissez l'Esprit Saint. Vous voyez ? Hein ? Jésus seul, et puis. Troisième temps. Mais vous, vous le faites à votre petit niveau. Ouais, alors, il faut bien un troisième temps. L'esprit de virginité et l'oraison vont vous permettre. Mais ça, c'est au début, vous faites ça. Vous suppliez Jésus de vous envoyer l'esprit. Au début de l'oraison, vous faites ça.
Je te supplie, Seigneur, je te supplie.
Si vous n'y arrivez pas, l'Esprit Saint parle par la parole de Dieu. Aidez-vous la parole de Dieu. Si ça peut vous aider. La parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui bruisse. Vous suppliez Jésus de faire que l'esprit d'intelligence, de science et de piété soit là. Quand vous lisez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, vous avez la permission, ne vous inquiétez pas, à condition que ce ne soit pas une méditation.
Le dans le principe
voilà, prenez un passage tout simple.
Tandis que Jésus descendait de la montagne. Je suis descendu de la montagne de l'incarnation. Comme ça, je fais que de la grosse main, il va jeter. visage de Jésus. Le passage entier de Jésus. Quand il vit Jésus, il tomba sur sa face.
Vous pouvez vous servir de la parole de Dieu. Je suis tout à fait d'accord. Servez-vous de la parole de Dieu. Mais surtout que ce soit Jésus. Et Jésus seul. Pas la parole de Dieu. Mais l'Esprit Saint. Que Jésus l'aime. L'Esprit Saint qui témoigne de la blessure du cœur de Jésus sur la croix. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu pour voir, pour entendre le cri de soif de Jésus, dans ce cœur blessé et broyé, victorieux de tout, c'est que vous n'avez pas lu l'Écriture. Vous avez craché dans un pot. Vous pouvez le faire en raison comme ça. Mais pour permettre à l'Esprit Saint. Voyez bien, ici, l'ami de l'époux, Saint Jean-Baptiste, qui est de l'Ancien Testament, a pénétré dans la voix, l'aspiration de l'époux, parce qu'il est l'ami de l'époux. Mais la dernière soif finale, vous voyez bien qu'il s'agit ici, la soif contemplative, c'est la soif de l'épouse. Il faut que nous puissions être totalement assimilés par l'Esprit Saint à Jésus, au Verbe de Dieu, qui s'enfonce entièrement dans les entrailles du Père. Et si nous passons par cette soif immaculée et complémentaire de l'Immaculée. Et ça implique ici, parce que vous voyez, c'est nous, ça. Ça reste nous. Ça reste à notre niveau, ici. Pour Jean-Baptiste, c'est étonnant. Mais Jean-Baptiste, c'est très en dessous de l'Immaculée. Et donc, Jésus veut que ce soit dans une plénitude de sainteté, pas la sainteté, dans une plénitude de sainteté que nous vivions ensemble, et que ce soit la plénitude de la gloire, la plénitude de la grâce, je vous salue Marie, pleine de grâce, qui se réalise à travers nous. Et elle, c'est à travers l'épouse, entendez bien, elle est l'épouse de Jésus, Rédempteur, la nouvelle Ève. Mais elle disparaît dans l'expiration si totalement qu'elle est inspirée, et que, uniquement par la personne mère du Christ, brisée, broyée, victorieuse, glorifiée de tout. Et donc c'est l'épouse éternelle, le Fils de Dieu, c'est l'épouse éternelle, vous me suivez? Comme c'est compliqué, mais dans la vie, l'horizon, c'est très simple, qui s'enfonce. Merde. Et vous voyez là, c'est la troisième étape de la vie de Saint Jean, puisque Saint Jean est avec Jean-Baptiste, il lui a appris à vivre prophétiquement de la croix de Jésus, de la blessure du cœur, puis il lui a appris à reconnaître l'agneau de Dieu, à vivre de l'Esprit Saint, sorti justement de cette l'Esprit Saint manifeste que Jésus est le Fils de Dieu. Mais, et puis il y assiste physiquement au pied de la croix, puis il vit de la Pentecôte, on est encore là. Mais la troisième étape, c'est qu'il prend Marie chez lui, de sa vie à Saint-Jean, c'est ça? Il prend Marie chez lui, il prend l'Immaculée, et l'Immaculée lui donne tout ce qu'elle a. Puisque Jésus donne la grâce, la plénitude de grâce de sa mère à Jean. Voici ta mère. Il la donne. Et donc tout ce qu'elle vit, il le vit. Vous ne pouvez pas faire oraison si vous ne terminez pas toute autre oraison, en faisant l'oraison comme l'Immaculée vivait l'oraison. Vous avez pris 21 minutes, prenez d'accord au début 7 minutes de méditation avec la parole de Dieu, 7 minutes ici, en enfonçant votre gloire extraordinaire de Jésus crucifié, d'attendre ce Père qui veut rejoindre, et puis ensuite laisser l'Immaculée. Pour que l'Immaculée, qu'est-ce qu'elle fait? C'est l'Esprit Saint seul qui active l'intériorité de la Vierge Marie. Il n'y a plus que l'Esprit Saint. Il est libre.
l'Esprit Saint ne supporte pas, qu'il y ait des fils à la patte ou qu'il y ait un grain dans l'œil. Vous mettez un petit grain de sang dans l'œil de la colombe s'en va. Dans l'œil de la colombe. C'est pour ça que si vous voulez vivre de l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas le faire sans air. Voilà comment on peut en raison. Vous comprenez bien qu'ici, c'est la manière de vivre du sacrement de baptême. Vous voyez, je vous ai dit, il faut de la terre, il faut de l'eau, et il faut beaucoup de soleil pour que le baptême puisse croître. C'est une transplantation, le baptême. Alors, eh bien, on va, dans 3 minutes, on va dire on va demander à l'Immaculée de nous aider en rentrant dans les mystères de la gloire telle qu'elle les a vécues, puis après on dira la messe.